Un petit point météo avec Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Salut mes amis.
Quelle température à Amiens, tiens?
-1.
-1 degré.
Ouais, couvre-toi, Nikos. Hein. -1.
À... J'avais un ressenti un peu plus frais ce matin en sortant.
Ah, ben voilà.
ah ça, c'est bon. Pourtant, le vent n'est pas très fort, 5 km/h. Mais vous avez dû ressentir, mon cher Nikos, du -2, -3.
Alors, oui, c'est vrai.
Le -1 pour Amiens. Nous l'avons à Bourges, nous l'avons à Nevers, à Caen, à Nancy, à Besançon. Même température qu'Amiens, qui est l'une des villes les plus fraîches de France, ou les plus froides. Il fait -2 à Orléans, il y a plus froid, -3 à Alençon et -4 à Nevers. Et dans les villes un peu moins froides, 0 à Lille, 1 à Paris, 3 à Toulouse et Lyon, 4 à Bordeaux, 5 à Marseille et 6 degrés à Nice. Alors, en ce qui concerne la couleur du ciel, c'est facile à résumer dans la mesure où la plupart des régions de France, on va dire les 3/4 de la France, seront sous un ciel voilé mais sec. Donc c'est une journée pas trop désagréable pour cet hiver, enfin pour une journée d'hiver, pardon. En Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes, Aquitaine et Béarn, là vous êtes sur la façade atlantique et vous êtes dans des régions où malheureusement le temps sera beaucoup moins souriant avec des petites pluies. Sur le Midi-Pyrénées, ça va s'arranger, comme sur le sud du Massif central et sur les Alpes. Voilà pour la couleur du ciel, donc deux exceptions, je vous les ai citées, et puis la grande majorité des régions sous un ciel voilé. Température maximale, 2 à Nancy, 3 à Colmar, 4 à Clermont, 5 à Paris, 6 à Caen, 7 à Rennes, 8 à Nantes, 9 à Toulouse et 14 degrés dans le comté niçois.
Merci Laurent Cabrol.
Merci. Alors Pierre, je voulais vous dire qu'ici dans le commissariat, on est très très écoutés, évidemment, très entourés. On a été reçus par des CRS tout à l'heure. À l'heure où je vous parle, il y a une trentaine, voire une cinquantaine de personnes, des fonctionnaires de police qui prennent des photos. Et je voulais dire aussi à nos auditeurs, vous pouvez suivre tout ce qu'on fait sur Twitter, sur Instagram, avec le hashtag Europe 1. N'hésitez pas à retweeter, à partager. Émission spéciale en immersion dans un commissariat en direct d'Amiens. Je suis aussi avec Alain Acco, notre chef du service police-justice. Comment est l'ambiance, Alain? Vous avez discuté tout à l'heure avec les fonctionnaires, je vous ai vu, Alain.
Ouais, et ils sont très impatients de faire partager, de partager leur quotidien, leur plaisir, leur motivation, et puis aussi leurs incertitudes parfois. Je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses ce matin.
Allez, c'est parti. Émission spéciale en direct d'Amiens, dans un commissariat sur Europe 1.
Une matinale spéciale à suivre également en direct sur Europe1.fr. Bienvenue à tous en ce vendredi 18 janvier. Et très bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas en direct d'Amiens et Pierre de Villeneau en studio ici à Paris.
Et le journal de 7h, c'est Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Cette matinale spéciale dans un commissariat d'Amiens, dès le début de ce journal. Reportage en immersion avec les policiers lors de la manifestation des Gilets jaunes la semaine dernière. Cet après-midi, Emmanuel Macron à nouveau face à des élus, cette fois à Souillac, dans le Lot. Une ristourne pour les usagers réguliers des autoroutes, 30% de réduction pour ceux qui empruntent le même trajet aller-retour au moins 10 fois par mois. Et puis les handballeurs français sur leur lancée, ils sont invaincus depuis le début du mondial en Allemagne. Victoire hier soir contre la Russie, 23 à 22. Europe 1. Et nous partons tout de suite dans un commissariat d'Amiens avec vous, Nikos.
Oui, ma chère Hélène, nous avons choisi de prendre le pouls des policiers après maintenant 9 semaines de mobilisation des Gilets jaunes. Écoutez ce reportage de Jean-Sébastien Soldaini qui, exceptionnellement, a eu l'autorisation de jouer les observateurs au cœur du dispositif des forces de l'ordre. C'était lors de la journée de manifestation de samedi dernier à Amiens. C'est parti.
La manœuvre, vous la connaissez.
Quand le briefing de la journée commence, les visages des policiers sont concentrés. Personne ne sait à quoi s'attendre car la mobilisation fluctue à Amiens. Entre 200 et 5000 personnes au gré des samedis, les profils changent aussi. Le brigadier-chef Christophe a vu beaucoup de gilets jaunes évoluer dans leur mode d'action.
Les premiers contacts qu'on a eus avec les gilets jaunes, ça se passait super bien. On était bien accueillis au sein des ronds-points quand ils allaient bloquer. Cette personne-là nous expliquait pourquoi elle était là. Et progressivement... Avec ce qui s'est passé sur Paris, ça a déteint, j'ai l'impression, sur la province. Tout doucement, les jeunes sont devenus de plus en plus agressifs.
Les mêmes visages reviennent face à lui, avec en plus d'autres profils venus se greffer au gré des mobilisations.
Les voyous qui se sont mélangés au mouvement, c'est des jeunes qui n'ont aucune revendication à faire de gilets jaunes. Comme on les dérange au quotidien, C'est peut-être un moyen d'exprimer leur ras-le-bol, notre présence dans nos interventions sur le secteur d'Amiens.
Au cœur des rassemblements, les policiers cherchent en permanence à identifier les agitateurs pour les appréhender. Cette fois, ils répondent à des insultes. Une vingtaine de policiers se dirigent vers un petit groupe de manifestants.
80 de Draco, donc à tous les effectifs, hein. Top interpellation. Bonjour monsieur.
Oui. Doucement là. Doucement.
Dans ce contexte de tensions à répétition, Stéphanie, membre des patrouilleurs, ne cache pas une certaine appréhension.
Forcément, la peur est là. De voir quelqu'un qui est déterminé et qui veut en découdre, d'essayer de nous coincer. Quand on est là depuis 6h30, la fatigue s'installe, donc on n'est peut-être plus à 100%.
À la fatigue des samedis passés sur le terrain s'ajoutent les critiques essuyées par les agents sur l'emploi de la force, critiques que le commissaire Fabrice Navarro entend tout en se justifiant.
On n'a pas du tout à rougir de la manière dont le maintien de l'ordre est assuré parce que nous avons en face des niveaux de violence qui n'ont jamais été atteints. Des individus qui sont de mieux en mieux équipés, qui ont un niveau d'agressivité qui augmente. Je pense que tout ça est géré avec un très grand professionnalisme.
Samedi dernier, il n'a eu qu'une cinquantaine de gilets jaunes à gérer. Il explique la baisse de tension dans sa ville par une série d'interpellations. Environ 80 agitateurs qui, dit-il, ne se montrent plus dans les rassemblements.
Reportage signé Jean-Sébastien Soldaini. Ce matin, lors de cette matinale spéciale, nous n'éluderons aucun sujet, notamment celui des violences policières. Évidemment, David manifestait près des Champs-Élysées le 1er décembre quand il a été grièvement blessé au visage par une balle de défense, triple fracture de la mâchoire, destruction du palais, 4 dents perdues. Écoutez son témoignage.
C'était une rue toute calme, hein. Pas de voiture incendiée, pas de vitrine cassée. On avance main dans la main avec ma copine, les bras en l'air. Et d'arriver à quoi, 10 mètres des CRS, je m'effondre au sol. Quoi. T'as pas le temps d'entendre une détonation, t'as le temps de rien voir. Ça part, ça tape. Je convulse, je crache mes dents, ma mâchoire. Il n'y a eu aucune sommation, à aucun moment, aucun hurlement me disant de ne pas approcher. Ils m'ont laissé approcher. Et à un moment donné, c'est clairement voulu, c'est l'envie de blesser en fait. Ils ont détruit quelques années de ma vie, quoi. Je peux pas manger des choses de dur. On m'a passé des boissons hyper protéinées. Le frigo en est rempli. C'est ma seule façon de m'alimenter aujourd'hui parce que sinon ça me fait mal. Je peux plus me moucher sous la peine de faire exploser mon palais. Je dors très peu en fait. Je suis réveillé par les tirs d'LBD, les grenades, que des cauchemars. J'ai perdu mon boulot. J'étais en intérimaire. D'ailleurs, de pire, en monument historique.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux forces de l'ordre ?
Pourquoi ? Ouais. Pourquoi ?
On leur posera la question tout à l'heure, un manifestant blessé par un tir de balle de défense au micro d'Europe 1 de Théo Manval. Hier soir sur Europe 1, le défenseur des droits de l'homme Jacques Toubon a une nouvelle fois demandé la suspension de cette arme. On en parlera tout à l'heure avec Christophe Castaner, le premier flic de France, ministre de l'Intérieur, à 8h15 avec Audrey Crespo-Mara. Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. 30% de réduction au péage pour les trajets. A tout de suite.
Il est 7h06, matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens avec Nico Saliagas. On le retrouve dans un instant, mais avant la suite du journal avec Hélène Zélani et Pierre de Villeneuve.
Et dans l'actualité également, il n'y aura pas de gel des tarifs de péage. En revanche, un geste, Hélène, pour les trajets réguliers.
Oui, un geste que les sociétés autoroutières ont accepté de faire après 3 réunions avec la ministre des Transports Elisabeth Borne. Réduction de 30% via un système d'abonnement pour ceux qui empruntent souvent le même trajet, François Geffrier.
La règle se veut simple. À partir de 10 allers-retours par mois sur le même trajet, les usagers de l'autoroute pourront avoir une réduction de 30% au péage. Cela concerne 1 million d'automobilistes. Exemple, vous faites l'aller-retour Verdun, Metz, 10 fois par mois sur l'A4. Votre facture mensuelle de péage passera de 102 € à 73 €. Pour ça, il faut souscrire un abonnement plafonné à 2,50 € par mois. Ces nouvelles offres commerciales seront présentées sur les sites internet des sociétés d'autoroute d'ici la fin du mois pour une entrée en vigueur au 1er février. Mais à ce moment-là, les tarifs augmenteront tout de même et pour tout le monde, entre 1,8 et 1,9%. Autrement dit, quand un passage au péage vous coûtait 10 €, ce sera 10 € plus 18 ou 19 centimes.
François Geffrier. Emmanuel Macron va-t-il se lancer dans un nouveau marathon ? Cette fois à Souillac, dans le Lot, le chef de l'État a rendez-vous à 15h avec plus de 600 maires dans le palais des congrès de cette commune d'un peu plus de 3700 habitants. Son entourage prévient, tant qu'il y aura des questions, il répondra. Dans l'heure mardi, ça avait duré près de 7h. La commune est bouclée, le marché annulé et les manifestations interdites de 8h à 23h. Alexandre Benalla a passé la nuit en garde à vue. Il s'agit de l'enquête sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques après son départ de l'Élysée cet été. Devant les sénateurs, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strada, avait révélé qu'Alexandre Benalla avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques entre août et décembre dernier. Le rappeur MHD en détention provisoire depuis hier soir. Mohamed Sylla, de son vrai nom, est mis en examen pour homicide volontaire dans une agression mortelle qui s'était déroulée à Paris en juillet dernier, liée a priori à une rivalité entre bandes. Sa voiture aurait été aperçue sur les lieux du drame, mais il clame son innocence.
Le mondial de hand en Allemagne, les Bleus se sont imposés à l'arraché hier soir contre la Russie.
23-22, sachant qu'ils étaient déjà qualifiés pour la prochaine phase. Match marqué par le retour de la star Nicolas Karabatic, un renfort de poids alors que les choses sérieuses vont commencer. À Berlin, Christophe Lamar.
Des spectateurs debout pour l'applaudir à l'appel de son nom, il n'y a que lui pour provoquer ça. Nicolas Karabatic a joué pas longtemps, mais c'était prévu un quart d'heure en première période, un peu moins en seconde. Pas de but pour l'homme aux 300 sélections, mais une victoire de la France et un Nicolas Karabatic heureux comme un gosse.
C'est énormément d'émotions, content d'être avec l'équipe, content de pouvoir jouer, aider un petit peu, quelque chose que j'espérais pas du tout il y a encore 2 mois et demi quand je me suis fait opérer, donc des bonnes sensations, je me suis pas blessé sur le match, je pense que je vais être content à Paris, je vais pas me porter la poisse donc je touche du bois, voilà, content avec aujourd'hui, même si bien sûr on peut tous faire mieux et je peux faire beaucoup mieux.
Il faudra élever le niveau dès samedi face à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Berlin, Christophe Lamar, Europe 1.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zellani, matinale info spéciale en direct du commissariat d'Amiens avec Nikos Aliagas.
Oui, si vous souhaitez réagir, faites-le en nous appelant au répondeur d'Europe 1 3921 et puis sur les réseaux sociaux également avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, au cœur de votre quotidien. Nikos Aliagas.
Il est 7h09, on vous retrouve Nikos Aliagas en direct d'Amiens dans un commissariat. C'est l'heure à présent de retrouver Carole Ferry.
Vous êtes où, Carole Ferry? Ce matin, on m'a dit que vous aviez crevé tout à l'heure. Je sais que vous êtes à Amiens, on avait un rendez-vous
et
nous l'avons toujours.
Oui, et les CRS m'ont gentiment changé la roue de la voiture. Je les remercie beaucoup. Ils ont été super. Ouais,
bon, super. Vous pouvez faire le reportage, là? Vous avez tout ce qu'il faut?
Je suis impeccable. Je suis à environ 20 minutes de route d'Amiens, à Corbie, parce que c'est là que vit Laurent. Laurent, il est capitaine de police. Il a travaillé à la BAC, la brigade anticriminalité. Aujourd'hui, c'est un des responsables du commissariat de nuit. Ici, vous avez le café qui coule, au mur, les photos de ses 3 enfants. Toute la famille vit dans une jolie maison de lotissement, une famille normal, si ce n'est l'angoisse permanente devenue quasiment naturelle de son épouse Sylvie.
Quand on entend le téléphone la nuit que son mari n'est pas là, on a quand même des peurs. Je ne veux pas me retrouver toute seule avec mes enfants. Puis c'est mon mari que je l'aime. Mais après, les gens, ils critiquent les policiers, mais quand ils en ont besoin, ils savent les appeler.
Ça vous touche?
Oui, ça me touche beaucoup. Mais ça me met en colère parce que il risque sa vie pour les gens, quoi. Mais les gens, ils comprennent pas.
De toute façon, quand on épouse un policier, on épouse la police nationale. C'est 24 heures sur 24. J'arrive avec mes joies, je transmets ça à tout le monde. J'arrive avec du stress, j'essaye de le cacher, mais malheureusement, on n'y arrive pas tout le temps. Quand je rentre après une nuit chargée, mouvementée surtout, je le sais le lendemain que ma femme est au courant. Elle me dit au réveil, ça a été la nuit? Oui. Non, ça n'a pas été, elle a dû être mouvementée, parce que vu comment t'es gigoté toute la nuit dans le lit, donc elle le sait.
C'est ça, c'est vrai.
Puisque de toute façon, un policier dans son quotidien est confronté quasiment qu'à des choses violentes, quoi. Des bagarres, des accidents de la route qui sont quand même traumatisants. Hein. Et la mort aussi, parce que tout le monde n'est pas formé à être confronté à la mort. Hein. Et lorsqu'on voit ces premiers cadavres, c'est marquant. Hein. C'est marquant, oui.
On peut le comprendre. Les enfants, ils le vivent comment, Carole?
Alors écoutez, franchement, ils le vivent très bien. Hein. En fait, ce qui agace le plus Charlotte, 13 ans, c'est la surprotection de son policier de père, habitué aux faits divers, à quelle heure tu rentres, avec qui tu sors, encore plus que les parents traditionnels. Mais en même temps, elle a une véritable admiration pour son père. Hein. C'est pour elle une sorte de héros des séries
télé. Mon père, ce héros. Oui.
Exactement.
Bah oui, je suis fière, parce qu'il sauve des gens, mais en prison, les mauvaises personnes.
Et alors, une fois que tu es à l'école, quand tu dis que ton père est policier, qu'est-ce qu'on te dit ?
On trouve ça cool. C'est surtout les garçons qui disent « Ah, ton père, il a un pistolet, il tire sur des gens ou pas ?» et tout ça.
Elle n'a pas honte de le dire parce qu'elle est dans un collège d'un petit village, donc là, il n'y a pas de souci, elle le dit librement. En revanche, l'année prochaine, elle va fréquenter un lycée à Amiens. Il y aura beaucoup plus de monde et je souhaiterais qu'elle ne le dise pas. Être fille d'un policier, ça ne va pas forcément être très bien perçu comme ça peut l'être dans nos campagnes, quoi. En période d'émeute ou de choses comme ça, vous êtes certaine que la fille du policier va prendre pour son père, c'est sûr.
Ça, c'est dur quand on est père policier de faire porter ça à ses enfants?
Bah, tout à fait, on le vit très mal. Hein. On voit son enfant partir au lycée avec une boule au ventre, et évidemment, ça se propage. Hein. La boule au ventre, vous l'avez, hein, encore plus en plus.
Voilà, vous voyez, un policier à la maison, c'est aussi beaucoup de culpabilité sur ce que son travail impose à sa famille. Mm-hmm. C'est aussi la transmission. Hein. Le fils aîné de Laurent travaille aujourd'hui comme adjoint de sécurité au commissariat d'Amiens. Il passe en ce moment le concours de la police nationale. Et franchement, à les avoir regardés vivre chez eux, eh bien, on a vraiment du mal à savoir lequel des deux est le plus fier de l'autre.
Voilà, Carole Ferry en immersion à Corbie, à côté d'Amiens, dans la famille de Laurent, capitaine de police dans ce commissariat où nous nous trouvons. Il est à côté de vous, Laurent ?
Il est à côté de moi, Laurent.
Bonjour, Laurent. Combien d'années que vous êtes policier ?
Eh bien, écoutez, ça fait 32 ans que j'exerce ces fonctions.
Et alors ? Au bout de 32 ans, on a encore envie ?
Eh bien, tout à fait. C'est un métier difficile, mais ô combien passionnant.
Et si vos enfants, comme on a entendu, veulent prendre le relais, vous les conseillez, vous leur dites pas de faire un autre métier, vous leur dites non, sers ton pays, rentre dans la police, vous les soutenez ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que lorsque notre fils nous a annoncé qu'il allait faire carrière dans la police nationale, on a un peu tiqué au début parce que connaissant les difficultés, et puis au final, maintenant, on en est fiers.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous sommes en direct d'Amiens, en immersion dans un commissariat. C'était Carole Ferry. Vous êtes tous ce matin, tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Bon réveil.
Europe 1. Il est 7h14. Restez avec nous, vous êtes sur Europe 1. Votre matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens continue. À suivre, Nikos.
Ma chère Céline, tout à l'heure, on a rendez-vous dans la salle de briefing lors du passage de relais entre les équipes de nuit et de jour avec la jeune commissaire qui dirige ici les 230 fonctionnaires. Elle a 28 ans. Elle s'appelle Agathe Foucault, ainsi qu'Emmanuel, le brigadier chef à la tête du bureau synthèse et coordination. Immersion dans le quotidien de la police en direct sur Europe 1 depuis la ville d'Amiens. Juste après ça, tout de suite.
Il est 7h17, des principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre
de
Villeneuve.
À la veille d'une 10e journée de mobilisation des Gilets jaunes, Europe 1 au contact des policiers à Amiens avec Nikos Aliagas. Emmanuel Macron a rendez-vous avec plus de 600 maires d'Occitanie cet après-midi à Souillac, dans le Lot, une commune placée sous haute surveillance. Plusieurs partis, associations et syndicats ont pourtant prévu de manifester dans le secteur en fin de matinée. Médine Mouche, face à la douleur des proches des victimes du musée juif de Bruxelles, devant les assises de la capitale belge, les partis civils vont s'exprimer pour la première fois en présence du djihadiste français. Attentat à la voiture piégée à Bogota, en Colombie. Le pire depuis 2003 dans la capitale. Il a fait 21 morts, des dizaines de blessés. Un deuil national est décrété.
En direct du commissariat d'Amiens, Nikos Aliagas.
Votre matinale spéciale continue. Vous vous trouvez dans un commissariat de police à Amiens, Nikos. Et donc la suite avec vous, dans la salle de briefing, je crois.
Oui, absolument. Je ne veux pas trop déranger. Je me trouve plus précisément dans ce qu'on appelle effectivement cette salle de réunion, de briefing. C'est là que les équipes de la nuit communiquent les dernières informations aux équipes du jour et vont prendre le relais. On les entend. À mes côtés, la jeune commissaire Agathe Foucault. Bonjour. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Alors, vous avez 28 ans et vous êtes ici responsable de 230 personnes dans l'effectif. Il y a aussi autour de cette table, présentez-moi les personnes avec lesquelles vous travaillez ce matin.
Alors, à ma droite, j'ai le lieutenant de police Erard, qui est chef des unités en tenue avec moi.
Bonjour, madame. Et à côté ?
À côté, c'est le brigadier Emmanuel, qui est le chef du bureau de synthèse et de coordination et qui, tous les matins, comme ce matin, donc, nous présente les affaires de la nuit et de la veille.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Expliquez-moi.
Alors, cette nuit a été relativement calme. Nous avons juste une interpellation concernant un individu qui a eu un accident de la circulation et qui a pris la fuite.
Donc jeudi soir, nuit normale en fait, rien de particulier.
C'est nuit normale par rapport aux autres nuits qu'on peut connaître le jeudi où voilà, la vie nocturne amiénoise est assez
mouvementée. Il y a beaucoup d'étudiants en fait, il y a 30 000 étudiants.
C'est bien ça, oui.
Et donc c'est quoi un jeudi soir un peu chaud, il se passe quoi en général ?
Bon, on est sujet à beaucoup de bagarres et beaucoup de vols au niveau justement des sorties de bars ou de discothèques.
D'accord, ça c'est pour la nuit. Agathe Foucault, qu'est-ce que vous allez suivre pendant la journée ? Quels sont les dossiers sur lesquels vous êtes en train de travailler ?
On prépare la manifestation de demain des Gilets jaunes. Et puis sinon, au-delà de l'événementiel, la vie courante du commissariat, des contrôles dans les quartiers et dans les points où on a de l'indélinquance habituellement.
D'accord. Il y a des consignes particulières avant la mobilisation des Gilets jaunes demain ?
Des consignes particulières, oui, d'être toujours professionnel sur le terrain et de rester mobilisé avec professionnalisme.
Alors vous avez 28 ans, je l'ai dit, c'est votre premier poste. Vous êtes sorti de l'école des commissaires il y a 6 mois. Ça fait quoi de diriger autant de personnes ?
Ça fait rien, j'en tire aucune gloire. Je travaille avec mes collaborateurs, avec mes officiers, avec mes autres effectifs, et on travaille tous ensemble pour servir la République.
Et pourquoi vous avez fait ce métier ?
Pour servir.
Pour servir. Et vous n'êtes pas déçu ? Là, vous êtes passé de l'école à la pratique, sur le terrain. J'imagine qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. On doit s'adapter à la réalité ?
On s'adapte, mais on n'est pas tout seul. Et j'ai des directeurs avec moi, j'ai des officiers avec moi, et j'ai des gradés et gardiens qui sont présents également pour m'apprendre, et j'apprends beaucoup grâce à eux.
C'est intéressant, et j'entends votre humilité, j'apprends. Vous avez 28 ans, et en même temps, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui décidez. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de dire, mais oui, c'est la réalité, c'est facile aujourd'hui de dire à des gars expérimentés qui sont là depuis 30 ans, qui sont sur le terrain, de rester dans leur rang, de garder leur calme ? Ils vous écoutent ?
Ils travaillent avec professionnalisme, c'est des effectifs qui sont formés, on est tous formés, on apprend au quotidien sur le terrain et en école, on a de la formation continue, donc j'ai confiance en eux, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Dans le journal de 7h, on a entendu une des victimes du fameux LBD, le lanceur de balles de défense. Vous en parlez à vos équipes aussi, de faire attention ? Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité ?
Les consignes, elles sont conformes aux dispositions légales qui encadrent l'usage du lanceur de balles de défense. Et les effectifs sont formés, ils sont recyclés régulièrement, donc ils connaissent les règles d'usage. Il n'y a pas de.
Mais il n'y a pas eu de blessés à Amiens ?
Il n'y a pas eu de blessés. On a utilisé le lanceur de balles de défense sur les dernières manifestations Gilets jaunes en fin décembre et on n'a eu aucun blessé. Le seul blessé qu'on ait eu, c'est du côté de nos effectifs à Abbeville.
Merci d'être avec nous, Agathe Foucault, commissaire de police, chef du service d'intervention d'aide et d'assistance de proximité. Merci Emmanuel, brigadier chef, en charge du bureau synthèse et coordination pour vos éclairages. À vos côtés, il y avait deux autres personnes, on peut les présenter rapidement.
Oui, tout à fait. Donc la directrice de la police municipale avec qui on travaille très bien à Amiens, et c'est une grande chance qu'elle soit présente tous les matins.
Super.
Et le commissaire stagiaire Vincent Sobzik qui sortira d'école également dans 6 mois.
Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous sommes en immersion ce matin dans un commissariat sur Europe 1 depuis Amiens. À tout à l'heure.
Pierre. Europe 1. Il est 7h23. Retour en studio à Paris avec vous, Pierre Devinois, à suivre.
Merci, Nikos. À tout à l'heure. L'innovation du jour avec vous, Anissé Mida. Bonjour, Anissé.
Oui, innovation qui devrait changer totalement la façon dont nos téléphones enregistrent le son des vidéos.
Dit-il. Bon réveil sur Europe 1. À tout de suite.
Il est 7h26. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mida, Pierre Devinois.
Oui, tout à l'heure, on retrouvera Nikos en direct d'Amiens pour la matinale spéciale. Mais d'abord, effectivement, Anissé, on connaît le zoom, la mise au point sur les vidéos. On l'a maintenant sur nos smartphones. Vous nous dites que la même chose arrive pour l'audio. Question, à quoi ça va bien pouvoir nous servir ? Avec le micro, c'est mieux l'audio.
Eh bien, on va prendre un exemple. Imaginez, vous êtes dans la rue, avec votre téléphone, vous êtes en train de filmer un artiste qui joue de la guitare, mais comme il y a beaucoup de vent, eh ben, ça donne ça. On entend surtout le vent. Hein.
Oui.
Eh bien, en appuyant sur les guitaristes dans son téléphone, ben, voilà ce que ça donne.
Zoom sur le son. Quoi.
Voilà, exactement, comme si on s'était rapproché, comme si le micro avait zoomé directement sur l'artiste.
Il y avait la même chose dans les restaurants, vous nous avez fait.
Oui.
Voilà.
Allez, on va voir un autre exemple. Là, cette fois, on est dans un parc.
Oui, c'est aussi la météo.
Oui.
C'est Laurent Cabrol qui arrive en plein milieu de ce parc.
Il y a beaucoup de bruit autour de la météo.
Il y a beaucoup de bruit dans le parc. Et bien là encore, on peut se concentrer uniquement sur les enfants qui sont en train de chanter, vous avez compris.
Comment ça marche ? Il faut un appareil spécial ?
Non, juste une application qui s'appelle Ozo. Elle utilise les micros de votre téléphone portable et ça permet de choisir précisément ce qu'on veut entendre. C'est disponible sur les téléphones Nokia et on a hâte que ça arrive sur tous les autres appareils.
Merci Anissé Mbida, l'innovation tous les jours, 7h25 bien entendu.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans 2 minutes, le journal de Théo Manval, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Pierre.
Mais le voilà, Laurent Cabrol.
Amiens, Amiens, quelle ville magnifique, Amiens. C'est quand même, quand vous allez à Amiens, vous ne pouvez pas en repartir. Vous avez les ortillonnages, on en reparlera tout à l'heure, des ortillonnages qui sont magnifiques, uniques au monde. Vous avez cette maison de Jules Verne, c'est là que Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune, Le Tour du Monde à 80 jours. Il l'a écrit à Amiens et la maison est transformée en musée maintenant. Et le temps de Amiens, le temps d'Amiens, c'est le temps, il faut quand même connaître un peu Amiens. Le temps d'Amiens, c'est le temps de la France, voilà. C'est-à-dire un ciel voilé, et je vais la résumer très simplement, un ciel voilé sur toute la France, y compris sur Amiens, excepté en Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes, Aquitaine, où nous aurons un petit peu de pluie, et excepté sur le Midi-Pyrénées, les vallées alpines, où nous aurons également un petit peu de pluie, un peu de neige ce matin, ça va s'arranger dans l'après-midi, notamment sur le Midi-Pyrénées. Les températures ce matin, moins 1 à Amiens, mais moins 4 en Sologne, 1 à Nantes et Paris, 4 à Bordeaux, 5 à Marseille, la météo décartable, habillez vos enfants, car aujourd'hui, il fait froid ce matin et il fera pas chaud dans la journée.
Merci Laurent Cabrol.
À suivre Pierre Devineau.
À 7h38, Jean-Michel Apathy, l'état d'esprit des Gilets jaunes à la veille d'une 10e journée de mobilisation. 7h40, Axel de Tarlet nous parlera de cette nouvelle passe d'armes entre le gouvernement américain et le géant chinois Huawei. Et puis 7h43, la suite de votre matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens avec Nico Salagas, avec lui autour de la table des policières, des policiers. Ils parlent de leur métier, des enjeux concrets et actuels justement de leur fonction. Merci d'écouter Europe 1. Très bon réveil à tous.
Nous sommes le vendredi 18 janvier, il est 7h30.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
7h30, le journal Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ils seront certainement utilisés une nouvelle fois demain lors de l'acte 10 des Gilets jaunes. Le défenseur des droits demande une nouvelle fois la suspension des LBD, les lanceurs de balles de défense utilisés par les forces de l'ordre. Depuis le début des manifestations, leur usage aurait fait 69 blessés, d'où cet appel renouvelé hier soir par le défenseur des droits Jacques Toubon sur Europe 1.
L'utilisation des lanceurs de balles de défense présente une dangerosité et nous avons donc, à plusieurs reprises, dit qu'il fallait suspendre l'utilisation de ces armes de force intermédiaire, mais il faut bien comprendre, en situation de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'on est sorti du maintien de l'ordre pour passer au rétablissement de l'ordre. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une doctrine de maintien de l'ordre qui comporte, de mon point de vue, le renseignement, la communication? Et enfin, l'accompagnement,
mais Jacques
le maintien de l'ordre.
Tout cela est fait.
Je n'en suis pas sûr.
Le défenseur des droits interrogé hier soir par Sonia Mabrouk dans votre grand journal du soir sur Europe 1. La colère des Gilets jaunes et cette mesure obtenue par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce une réduction de 30% des tarifs autoroutiers pour ceux qui font des trajets réguliers et passent au moins 10 fois par mois au péage aller-retour. Ça se fera via un système d'abonnement. On précise que les tarifs classiques des autoroutes vont augmenter de près de 2% pour tout le monde au 1er février prochain. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron entame lui sa deuxième étape du grand débat. Le président de la République sera à Souillac dans le Lot cet après-midi. Nouvelle séance de discussion avec plus de 600 élus locaux. Le chef de l'État qui a par ailleurs confirmé hier lors de ses vœux aux armées que les troupes françaises resteraient engagées au Levant pour lutter contre l'État islamique. Et ce malgré le retrait des Américains de Syrie. Emmanuel Macron s'exprimait depuis la base militaire de Toulouse-Francazal.
Le retrait annoncé de Syrie, de notre allié américain, ne doit pas nous faire dévier de notre objectif stratégique. Éradiquer Daesh en privant cette organisation terroriste de toute empreinte territoriale et en empêchant sa résurgence. Nous aurons à conduire dans la région de nouvelles opérations. C'est pourquoi nous resterons militairement engagés au Levant, au sein de la coalition internationale, au cours de l'année qui vient. Mais toute précipitation à se retirer serait une erreur.
Emmanuel Macron au micro de Didier François pour Europe 1. À l'étranger, la Colombie connaît le pire attentat de son histoire. Au moins 21 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée contre l'école de la police nationale à Bogota. On dénombre aussi 68 blessés. En France, Alexandre Benalla reste en garde à vue. Il a passé la nuit dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Dans l'enquête sur l'utilisation controversée de ses passeports diplomatiques, l'Élysée accuse désormais l'ancien chargé de mission d'avoir écrit une fausse lettre du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron pour obtenir l'un de ses passeports. Le rappeur MHD en détention provisoire, il a été mis en examen pour homicide volontaire 6 mois après une rixe qui avait coûté la vie à un jeune homme à Paris l'été dernier. Rixe a priori entre bandes rivales. Le rappeur fait savoir qu'il conteste toute implication. Enfin, les sports. Les Bleus poursuivent leur sans faute au Mondial de handball. Victoire 23-22 hier soir face à la Russie avec le retour de Nicolas Karabatic.
Merci, c'était le journal de Théo Manval.
Europe 1.
Il est 7h33.
Les Les voilà, nos éditorialistes. D'abord, la politique avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Pierre.
De quoi parle-t-on ?
Des gilets jaunes. Acte 10, est-ce que les manifestations de demain sont légitimes ou pas ? Eh bien, on dira qu'elles sont plutôt illégitimes demain, les manifestations.
Et l'économie. Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour Pierre. Stupeur et inquiétude aux États-Unis qui se demandent si les Chinois ne seraient pas capables de couper le réseau électrique américain.
Apathy Tarlet, c'est dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h37, Pierre Devineau, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Oui, nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Certains manifesteront demain pour le 10e samedi consécutif. Jean-Michel, dites-nous quels sont les objectifs désormais des Gilets jaunes.
Je vais vous le dire clairement, Pierre, plus personne n'en sait rien et les Gilets jaunes eux-mêmes ont perdu de vue leurs objectifs parce que ça va de l'augmentation du SMIC au renversement du gouvernement. Donc on ne sait plus ce qui est prioritaire chez les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont l'habitude de dire... Nous n'avons rien obtenu, on ne nous écoute pas. C'est totalement faux. Bien sûr, ils n'ont pas obtenu l'augmentation du SMIC et des retraites ou le fameux RIC. Mais quand même, ils ont obtenu que toute la société s'intéresse à eux et partage leurs préoccupations principales, c'est-à-dire les questions de pouvoir d'achat pour les salariés modestes et pour les retraités. Ça, déjà, ça n'est pas rien. Ils ont paralysé l'action du gouvernement et ils ont déstabilisé un président de la République issu au suffrage universel. Pour voir une situation politique pareille, il faut remonter à mai 1968. C'est exactement, en termes de bilan, la même chose, sous la pression des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a décidé d'organiser un grand débat. On en a eu la première réunion dans l'heure mardi dernier. 7 heures de réunion, très bien. On appelle ça le grand débat. C'est en fait une assemblée générale de citoyens dans laquelle les Gilets jaunes ont intérêt à participer. Ou à laquelle, pardon, les Gilets jaunes ont intérêt à participer. Ils doivent investir partout où ça se déroule en France, les réunions qui leur permettront de faire valoir leur point de vue. Et ils doivent se battre d'ici au 15 mars, fin de ce grand débat, pour imposer leur point de vue. Dans une démocratie, les manifestations sont légitimes quand il s'agit de créer un rapport de force, quand le pouvoir ne vous écoute pas, mais quand un espace de dialogue est créé. Alors la manifestation, si elle reste légale, ce sera légal de même, bien sûr, mais la manifestation devient illégitime. Dans une démocratie, quand on peut dialoguer, on ne défile pas. L'acte 10 de demain n'est pas légitime.
Merci Jean-Michel Apathy. Tous les jours à 7h40, Axel de Tarlet. Panique aux États-Unis, des parlementaires américains soupçonnent les Chinois de vouloir couper le réseau électrique.
Eh bien oui, car qui est au cœur du réseau électrique américain ? Qui a fourni des équipements, des panneaux solaires, des ondulateurs électriques aux Américains ? Ce sont les Chinois, et en particulier cette entreprise chinoise Huawei, qui est déjà sous le coup d'une enquête aux États-Unis pour espionnage. Alors des parlementaires américains s'affolent, car avec leurs équipements qui truffent le territoire américain, les Chinois qui seraient en passe non seulement de maîtriser les réseaux télécoms, mais aussi le réseau électrique. Car aujourd'hui, tout est connecté, tout est en réseau, tout est pilotable à distance. Et donc, qui sait, le fantasme, c'est d'imaginer que depuis Pékin, d'un simple clic, le patron de Huawei soit capable de perturber, voire de faire tomber en panne le réseau électrique américain.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté américaine de nuire aux Chinois, et tout particulièrement à Huawei, qui est la bête noire de Donald Trump ?
Alors certainement, les Américains ne supportent pas de voir que le numéro un mondial des équipements télécoms, donc une technologie clé, soit désormais chinois. Mais cette affaire montre aussi la grande vulnérabilité de nos sociétés où tout est connecté, la maison, la voiture, le chauffage, le frigidaire, la brosse à dents. Et donc, nous sommes vulnérables face à une cyberattaque alors qu'elle émane de pirates, de spécialistes ou de puissances étrangères. Et de ce point de vue, eh bien, la Chine, autoritaire et dominatrice, montre un visage bien inquiétant. Et c'est là la limite de cette politique chinoise de Xi Jinping qui veut allier liberté économique et autoritarisme politique. Le problème, c'est que partout dans le monde, eh bien du coup, on se méfie de ces entreprises chinoises sous tutelle du pouvoir politique à Pékin. On le voit bien avec Huawei, de nombreux pays, États-Unis, Angleterre et bientôt probablement Allemagne, ont carrément interdit l'utilisation d'équipements Huawei pour les nouveaux réseaux 5G.
Le Zoom Echo d'Axel de Tarlet, tous les jours à 7h43 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 7h41, votre matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens continue avec vous, Nikos Aliagas. Commissariat, vous êtes bien entouré, Nikos.
Ça, c'est la seule certitude, je suis bien entouré. Déjà, j'ai Alain Inco à côté de moi, le chef du service police-justice, mais aussi David Prodhomme, directeur départemental de la sécurité publique, c'est le patron. Marie-Ange Martins, la capitaine et chef du service d'ordre public. Et puis Denis, qui est brigadier-chef à la BAC. On va parler vraiment sans filtre, de tous les enjeux auxquels ils font face au quotidien. Le climat actuel tendu, les rapports avec le pouvoir judiciaire, politique, mais aussi la difficile question des violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. On est là, en direct d'Amiens. On vous attend. À tout de suite.
Il est 7h42, les principaux titres à retenir ce matin, Pierre Demier.
Avant de retrouver Nikos dans un commissariat d'Amiens, Alexandre Benalla, toujours en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, l'Elysée accuse l'ancien chargé de mission d'avoir écrit une fausse lettre de son directeur de cabinet pour obtenir un passeport de service. Le rappeur MHD a passé la nuit en détention provisoire, mis en examen pour homicide volontaire. Il est soupçonné d'avoir participé à une rixe qui a coûté la mort d'un jeune homme en juillet dernier à Paris. Emmanuel Macron attendu à Souillac, dans le Lot, pour sa deuxième étape du grand débat. Il a rendez-vous avec plus de 600 élus.
Europe 1. Retour à Amiens, votre matinale spéciale continue en direct d'un commissariat où nous avons posé nos micros. Nikos Aliagas, vous vous trouvez actuellement avec trois policiers amiénois.
Et à mes côtés, Alain Inco. Alors, je suis effectivement entouré de deux messieurs et une policière. D'abord, David Prudhomme, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes en quelque sorte le grand patron ici, le commissaire Damien, enfin, le directeur départemental de la sécurité publique. Bon, l'actualité, ce sont les Gilets jaunes. Ça fait maintenant près de 2 mois que ça dure. Comment ça s'est passé depuis le début du mouvement, ici à Amiens ?
Mais écoutez, 10 semaines, c'est très long, effectivement. 10 semaines de mobilisation avec un mouvement qui a évolué, qui nous a surpris, qui est inédit pour nous. Qui a débuté par une mobilisation classique, mais en même temps très inorganisée sur des ronds-points, j'allais dire gentiment. Ici à Amiens, ça a été 5 semaines assez calmes. 6e et 7e semaine, on a été surpris par des casseurs. Donc nous n'avions plus des manifestants, nous avions des casseurs et il y a eu pas mal de dégradations ici à Amiens. On a réussi à préserver le centre-ville. Nous avions le marché de Noël, à ne pas avoir de blessés. Et puis la mobilisation dure, donc voilà, on reste mobilisé, on avance un peu vers l'inconnu.
Vous nous dites, on a été surpris, ça nous a surpris. Marie-Ange Martins, vous êtes capitaine sur le terrain en première ligne, le 22 décembre notamment. C'était un peu tendu, il y a eu 400 manifestants, vous étiez combien de policiers ?
Au départ, nous étions 40.
Comment on gère quand on est 40 face à 400 ?
On est formé pour ça, donc on s'organise, on prévient les manifestants. La formation fait que voilà, lorsqu'on arrive, on sait un petit peu quoi faire.
Oui, vous êtes formé, mais en même temps, la réalité et le terrain changent la donne.
Tout à fait.
J'imagine, il faut s'adapter.
Il faut s'adapter, surtout que les premières manifestations, comme disait mon directeur, étaient calmes. Nous étions accueillis relativement bien. Et c'est vrai que la manifestation du 22, dès que nous sommes arrivés, on a vu tout de suite le ton qui changeait, des individus qui étaient masqués, qui étaient équipés. Donc on a vu tout de suite que le ton avait changé d'une semaine à l'autre.
Le premier jour, le 17 novembre, première manif, vous êtes surpris par l'ampleur. Il y a combien de milliers de personnes ici à Amiens ? On n'avait pas vu ça depuis des années, j'imagine.
Alors c'était un peu inédit, on avait 5000 personnes. On avait une grosse manifestation de gilets jaunes motards. Un petit dispositif, on était un peu moins d'une centaine de policiers. Ça s'est passé dans le calme. On a eu des conséquences, j'allais dire économiques, parce que la ville a été bloquée. Voilà une manifestation vraiment qui s'est déroulée dans le calme.
Alain Inco.
Le premier jour des violences, ce qui est frappant, c'est que quand vous étiez une quarantaine face à 400 manifestants, il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'étaient pas de service, qui sont revenus spontanément.
Tout à fait. Beaucoup de fonctionnaires, notamment de la section d'intervention qui ne travaillaient pas ce jour-là, sont revenus spontanément dès qu'ils ont su que voilà, le ton avait changé, que les violences étaient là. Le mouvement se durcissait, donc 100% de mes effectifs sont revenus pour nous prêter main forte.
Vous avez dit tout à l'heure, on est formé pour ça. Est-ce que c'est à la police de répondre à la crise des Gilets jaunes sur le terrain, David ?
Alors, c'est pas nous, notre mission, j'allais dire, elle est claire. La mission de la police, c'est pas de casser, c'est de faire baisser le niveau de violence.
D'accord.
Moi, ma mission en tant que directeur, c'est de rétablir l'ordre, c'est pas de créer du désordre. Donc, notre mission, elle n'est pas politique. Notre mission, elle est vraiment de protéger les personnes, de protéger les institutions.
Alors, des violences, il y en a. Soyons réalistes. Vous voyez ce qui se passe, peut-être moins à Amiens, mais vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines encore à Paris, avec des blessés. Comment est-ce qu'on gère ça ? Je voudrais vous faire écouter le témoignage de David. Il a été gravement blessé au visage, triple fracture de la mâchoire. C'était le 1er décembre sur les Champs-Élysées. Écoutez.
C'était une rue toute calme, hein. Pas de voiture incendiée, pas de vitrine cassée. On avance main dans la main avec ma copine, les bras en l'air. Et d'arriver à quoi, 10 mètres des CRS, je m'effondre au sol. Quoi. C'est, t'as pas le temps d'entendre une détonation, t'as le temps de rien voir. Ça part, ça tape. Je convulse, je crache mes dents, ma mâchoire. Les médecins, ils nous ont relevé la balle à 330 km/h par rapport aux dégâts. Il n'y a eu aucune sommation, à aucun moment, aucun hurlement me disant de ne pas approcher. Ils m'ont laissé approcher. Il y a mon essai, c'est clairement voulu, c'est l'envie de blesser en fait.
Ça, c'était à Paris. Ici, à Amiens, vous avez eu des blessés de ce type ?
Alors ici, à Amiens, 51 usages de LBD, ce qui est vraiment énorme, ce qui est vraiment très important. Aucun blessé. Le blessé, on l'a vu ce matin, on l'a salué ce matin, il a été décoré d'une médaille d'acte de courage et dévouement. C'est un blessé policier. C'est un blessé qui est dans nos rangs. Sur les questions des violences, c'est une question importante pour nous. C'est une question...
Vous le déplorez quand vous entendez le témoignage de David tout à l'heure qui se fait casser la mâchoire.
Alors bien évidemment, je le déplore, mais nous aujourd'hui, ce matin, c'est l'occasion de passer des messages.
Allez-y.
Le message que j'ai envie de passer, on est dans des journées de manifestants. La manifestation, c'est jamais innocent. Une manifestation, c'est pas un jeu. On ne s'amuse pas quand on va sur une manifestation et j'allais dire on n'a pas tous les droits. Manifester, ce n'est pas casser, manifester, ce n'est pas s'amuser à jeter des pierres sur les services d'ordre. Le manifestant, ça s'organise. Être manifestant, c'est quelque chose qui s'organise et ça ne permet pas tout. Et on a également dans les blessés, on peut le déplorer, un certain nombre d'individus qui sont des curieux, qui veulent prendre des photos, qui veulent s'approcher des forces et qui peuvent être victimes de coups collatéraux.
J'imagine que le quotidien sur le terrain, parce que nous, de l'autre côté, on peut commenter, on peut faire notre métier de journaliste, on regarde ça à la télévision, mais vous, qui êtes sur le terrain, qui vous devez à la fois protéger l'environnement et l'humain, vous êtes aussi la cible d'insultes, de pavés. Comment on gère psychologiquement cette tension ? C'est une tension. Est-ce que ça peut vous faire perdre votre sang-froid ?
On est formé pour ça, on est habitué pour ça, on a quand même beaucoup d'années de pratique. Personnellement, j'ai 14 ans au sein du service d'ordre public. Denis a 18 ans à la BAC. Donc forcément,
vous n'avez jamais perdu votre sang-froid, Marie-Ange ?
Non. Il y a toujours des moments de stress, ce qui est normal sur les manifestations. Mais voilà, on est formé, on est professionnel, on travaille en équipe constituée. Donc non, le sang-froid, on le garde.
Alain Acco ?
Pour éviter les blessures avec le LBD, par exemple, Denis, à la BAC, quelles sont les consignes, quelles sont les règles d'usage, dans quelles circonstances et comment faut-il s'en servir ?
Alors au départ, il faut savoir que la BAC est l'unité la plus formée de la police nationale et donc on a des armes de force intermédiaire. Elle en fait partie et donc nous avons une doctrine pour l'emploi de cet outil et nous visons donc le torse, les membres supérieurs et inférieurs. Mais il faut savoir que dans un mouvement comme ça de manifestation, les gens sont mobiles. Dès qu'ils voient cette arme se mettre en joue, automatiquement, ils se mettent en mouvement et effectivement, ça peut ne pas être évident au niveau de l'impact.
Que vous disent les gens ? Que vous disent les gens dans la rue aujourd'hui ? Parce qu'il y a des périodes où on embrasse les policiers, comme après les attentats, on prend des photos avec eux. Et puis après, il y a des manifestations, il y a des blessés, c'est plus tendu. À Amiens, quelle est l'ambiance ?
Alors, à Amiens, il y a beaucoup, comme dans beaucoup d'autres villes, il y a beaucoup d'exaspération. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'artisans, de chefs d'entreprise, de patrons de grandes surfaces qui me disent, pour moi, c'est du chômage technique. C'est des caissières qu'on met en chômage technique quand on bloque mes ronds-points. Il y a une part d'exaspération de la population. C'est un mouvement... Alors, nous, ici, notre rôle, c'est pas de juger le mouvement social. Il y a de la colère en ce moment qui s'exprime en France. C'est peut-être de rappeler des messages. Moi, je reviens encore là-dessus. La manifestation, c'est pas n'importe quoi. Et il est temps pour nous que ce désordre cesse. Et notre rôle, c'est justement de faire baisser le niveau de désordre dans notre ville, ici à Amiens.
Et c'est quoi le piège ? C'est le moment où ça peut basculer ? C'est ça que vous craignez ? Fin de la journée, vous dire qu'on n'a pas eu à dénombrer des morts ou des choses comme ça ? Ça fait partie de vos préoccupations ?
Ici à Amiens, sur l'année, si je fais le bilan de cette année, c'est 200 manifestations. C'est pas de blessés. Et ça, c'est un succès pour nous. Préparer une manifestation pour la police, c'est beaucoup de travail avant. C'est énormément de préparation. Ça ne se voit pas. Hein, préparer un match de foot, préparer une manifestation, ça nous demande beaucoup d'organisation, d'anticipation. Et le résultat, c'est quand on n'en parle pas pour nous. C'est quand il n'y a pas d'incident, c'est quand il n'y a pas de blessés dans les forces de police, c'est quand il n'y a pas de blessés dans les manifestants. Et ça, c'est vraiment un succès pour nous, une réussite. Évidemment, on parlait de blessés tout à l'heure. C'est toujours un échec, un blessé. Hein. C'est toujours compliqué à gérer. Mais voilà, notre but, c'est vraiment que les manifestations, que ce droit s'exprime, s'exprime dans la liberté, mais également dans les règles. Les manifestants, ils doivent respecter des règles. Nous aussi, on a beaucoup de règles à respecter. Mais notre but, c'est que la manifestation se passe bien.
On a vu tout à l'heure des chiffres qui ont été publiés hier soir. 9 suicides depuis le début de l'année dans les rangs de la police. C'est beaucoup, c'est un tous les deux jours quasiment. On en parlera tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et comment est-ce qu'on gère des moments difficiles pour les fonctionnaires, pour les policiers ou ceux qui rentrent justement du terrain, qui perdent le moral ?
Alors nous, nos policiers, ils ont un métier compliqué. On a un métier qui est dur parce qu'on travaille en cycle décalé, on travaille dans un milieu hostile. Le sujet humain, le sujet du suicide, c'est un sujet important pour la hiérarchie. C'est un sujet sur lequel on doit être à l'écoute, la hiérarchie doit être à l'écoute, doit proposer des solutions d'écoute. On a des psychologues au sein de la police nationale, on a des médecins qui sont là pour écouter. Mais c'est quelque chose qui est compliqué à anticiper. Malheureusement, voilà, on ne peut pas anticiper ces situations qui sont du domaine de l'intime et du personnel.
Merci à vous trois pour cet échange. David Preud'homme, commissaire Damien, merci. Directeur départemental de la sécurité publique. Marie-Ange Martins, capitaine et chef du service d'ordre public. Et Denis, brigadier chef à la brigade anti-criminalité. Et on se retrouvera tout à l'heure aussi en direct, Damien, avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur Europe 1 ce matin. Édition spéciale en direct d'un commissariat.
Europe 1. Il est 7h54, justement, Nico, à suivre.
C'est pas brigadier-chef.
À suivre l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il est ici sur place, dans le commissariat d'Amiens. Il sera justement aux côtés de Nikos Aliagas. Et il ne manquera pas de réagir à tout ce qu'on a entendu, les interviews et les reportages.
Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Pierre Devineau.
Oui, c'est Vous savez quoi, tous les jours, juste avant 8h avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Ce matin, on part au Mexique avec la pub très drôle d'une compagnie aérienne.
Ouais, la compagnie s'appelle Aeromexico et elle part d'un constat très simple. Autant tous les Mexicains veulent aller en Amérique, autant peu d'Américains ont l'envie du Mexique. La preuve, nous voici dans une petite ville typique du Texas, dans son jus, avec ses pick-up, ses chapeaux de cow-boy et ses habitants dont on se dit qu'ils n'ont pas dû souvent sortir de chez eux. Vous aimez la tequila ? Oui. Vous aimez les burritos ? Oui. Vous aimez le Mexique ? Non. En résumé, chacun de son côté de la frontière et les tortillas seront bien gardées. On est d'accord, c'est un peu caricatural, mais il y a une super trouvaille. La compagnie propose à ses Américains de passer des tests ADN. Vous savez, c'est la grande mode en ce moment pour connaître ses origines. Eh bien, si jamais vous avez du sang mexicain, on vous fait une ristourne sur le billet d'avion. 18% mexicain, 18% de réduction. 22% mexicain, 22% de réduction. Et là, ces habitants qui n'aiment pas trop les migrants mais qui adorent les discounts, eh bien ces habitants se réjouissent de découvrir qu'ils ont des origines mexicaines. C'est d'ailleurs le cas pour plus de la moitié des Américains qui ont passé des tests au sud du pays, c'est ce que dit la compagnie. Alors évidemment, on pense tous à la même chose, la polémique sur le fameux mur de Donald Trump, sauf que le président n'est jamais évoqué dans la pub. C'est tout en filigrane, c'est très finaud. Et vous savez quoi ? Pour la pub, on a peut-être même un jingle à repas.
Mexico !
Tu m'étonnes.
Parfait. Mexique.
Merci Jean-Philippe Ballas, la petite histoire du jour tous les jours, juste avant 8h.
À suivre le journal de David Ducamp, mais tout de suite la météo avec Señor Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, la mémoire.
Hey, j'ai envie de chanter Amiens.
Oui, mais non.
Non. Préfecture de la Somme, la notre ville d'Amiens où nous sommes, avec des températures de moins 1 degré, ce qui est bien pour cette ville qui possède la plus belle cathédrale gothique de France, la plus vaste, 150 mètres de long et 80 mètres de large. C'est vous dire, c'est la plus vaste et elle a bien des atouts cette ville d'Amiens dont nous reparlerons tout à l'heure si vous me le permettez. Nous avons des températures sur la France entre moins 4 et plus 6 degrés, cet après-midi entre 2 et 10 degrés, donc les températures baissent et nous avons bien choisi notre ville puisqu'elle symbolise parfaitement le temps de la France. Nous aurons à Amiens le temps de la France, c'est-à-dire un temps voilé, un temps sec, excepté la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Béarn, où les nuages vont se rassembler, où nous aurons de la pluie en fin de journée, excepté aussi le Midi-Pyrénées, où là, cela va s'arranger, comme sur le massif alpin. Voilà, les températures, je vous les ai données. Demain, ça ira beaucoup moins bien avec du gros mauvais temps.
Merci Laurent Cabrol, nous sommes à la veille d'une 10e journée de mobilisation des Gilets jaunes. L'état d'esprit de la police, les polémiques sur les LBD et les violences policières, on en parle juste après le journal avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Excellente matinée à tous, on se vendredi 18 janvier sur Europe 1. Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas en direct d'Amiens et Pierre de Villeneuve ici en studio à Paris.
Et le journal de David Doucan, bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Trois titres à la une.
C'est la question au cœur de la crise des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat Zoom. Dès le début de ce journal sur une initiative prise par la ville de Grande-Synthe, le maire invente un minimum social garanti. Grand débat, Emmanuel Macron remet cela. Aujourd'hui à Souillac dans le Lot, il fera face à plus de 600 maires d'Occitanie. Et puis nous retournerons bien sûr à Amiens, matinale spéciale avec Nico Saliagas, reportage en immersion dans le quotidien des policiers à suivre dans cette édition.
Europe 1.
Un minimum social garanti à Grande-Synthe dans le Nord. Le maire, Damien Carême, met en place une allocation temporaire en complément des aides existantes pour permettre aux plus démunis d'atteindre au moins 855 euros de revenus par mois. C'est le seuil de pauvreté. Notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot, nous explique tout cela.
Cette semaine, Christophe est venu se renseigner en mairie sur le minimum social garanti. Vivant seul dans un foyer avec un RSA comme seule ressource et quelques aides, le jeune homme aura bien besoin de ce coup de pouce financier.
Je pense que ça va être quelque chose d'entre 150 et 200 euros. Je pense donc que ça serait quelque chose d'un petit plus quand même pour aller mieux dans la vie, quoi, quand même, parce que 500 euros, c'est pas évident non plus. C'est pas vivre qu'on fait là, c'est même pas survivre, c'est vraiment qu'on rame. On rame, on a du mal. Donc que eux-mêmes proposent ça, ça fait plaisir. Si on se dit, bah, on n'est pas tout seul. C'est ça qui est bien, quoi.
17% des habitants de Grande-Synthe devraient bénéficier de cette aide, financé par le budget grâce notamment aux économies sur la facture énergétique de la ville et calculé pour permettre aux plus démunis d'atteindre les 855 euros par mois, soit le seuil de pauvreté. Mais pour Damien Carême, le maire, il ne s'agit pas d'un revenu proprement dit.
C'est pas un revenu parce que c'est vraiment une aide sociale. Je veux pas non plus que la CAF, par exemple, retire le RSA parce que la ville assure un revenu. Donc c'est vraiment une aide complémentaire. En leur assurant ce minimum social, eh ben, du coup, on va leur sortir la tête hors de l'eau et ça va les rendre beaucoup plus disponibles à cette insertion sociale et professionnelle. Donc il n'y a rien d'assistant là-dessus.
Et les premiers versements de ce minimum social garanti devraient intervenir à partir du mois de mars. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Dans l'actualité, David, les maires d'Occitanie auront-ils droit eux aussi à un marathon présidentiel?
C'est en tout cas la promesse de l'Élysée. Emmanuel Macron arrivera devant les quelques 600 élus réunis à Souillac dans le Lot à 15h. Le palais ne donne pas d'horaire de fin. Tant qu'il y aura des questions, il répondra, indique son entourage. Et puis, la socialiste Martine Aubry, la maire de Lille, a donné son avis, on ne l'avait pas entendu depuis longtemps, sur le grand débat national. On l'écoute.
Sur le débat national, je le dis très simplement, je crois qu'il faut ce débat, à condition bien évidemment qu'il ne soit pas pipé. Or, ce qui peut m'inquiéter, c'est la lettre qui a été envoyée par le président de la République, ne dit pas un mot du pouvoir d'achat, pas un mot. Et qu'elle exclut, bien qu'elle dise, vous pourrez parler de tout, qu'elle exclut par exemple la réforme de l'ISF. Donc je pense que les idées sont quand même pipées.
Et j'ajoute que selon un sondage au Doxa Dentsu Consulting, 2 citoyens sur 3, donc 64%, doutent de l'utilité du grand débat national.
Europe 1.
À suivre dans votre journal, David, matinale spéciale dans un commissariat d'Amiens avec Nico Saliagas, reportage en immersion dans le quotidien des policiers. À tout de suite.
Il est 8h05, votre matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens continue et on vous retrouve immédiatement, Nico Saliagas.
Depuis ce matin, à 7h, on fait partager le quotidien des policiers ici à Amiens, leurs interventions sur le terrain, leurs patrouilles, leurs doutes, leurs envies. Reportage en immersion avec Guillaume Bier. Écoutez.
Derrière la façade en briques de ce commissariat années 70, l'accueil du public ne désemplit pas.
Bonjour monsieur, c'est pour
quoi ? J'avais posé une plainte pour un cambriolage.
Je vous laisse patienter, ouais, ou on merci. Va venir vous chercher.
Quelques minutes d'attente et une autre policière prend sa plainte.
Je vous en prie, asseyez-vous monsieur. Il y a eu beaucoup de choses de volées monsieur ?
Des bijoux, des lunettes, enfin que des objets de valeur. Des bagues, ils en ont pris une vingtaine, ouais, mais c'était des bagues à 50 balles ou 20 balles, vous savez.
Fantaisie ?
Ouais, voilà.
Au bout du couloir défraîchi, David, officier de police judiciaire, le nez dans la paperasse, toute la journée.
Une petite procédure comme un vol étalage, ça représente 4 à 5 heures de travail. La moindre procédure aujourd'hui qui nécessite une garde à vue, c'est souvent une journée d'enquête pour un enquêteur.
Juste au-dessus, au premier étage, le centre de commandement. Devant un mur d'écran, les policiers dirigent les patrouilles sur le terrain par radio et répondent aussi aux appels d'urgence, comme celui de cette dame, témoin d'un vol de sac à main.
Ah, monsieur, la dame a retrouvé son sac, mais il n'y a plus rien dedans.
D'accord. Oui, donc je réitère concernant la description de l'individu. Hein. Donc individu type NA, porteur d'un imperméable gris-blanc, pantalon noir.
Et 5 minutes plus tard,
Oui, c'est suivi. Hein. Donc, individu interpellé. Hein.
Le suspect interpellé, il était déjà recherché, expliquez-nous.
Il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Il avait une peine de prison à effectuer et une peine d'amende à payer.
Ramené au commissariat, la victime est soulagée.
Je les admire déjà beaucoup avec tout ce qu'ils font, mais là, je veux dire que je les félicite.
Dans la salle de repos, à peine le temps de déjeuner pour ces policiers harnachés avec tout leur équipement, y compris la chef Marjorie Tavernier, stylo dans une main, pizza dans l'autre.
Oui, tout à fait. Je suis en train de manger et préparer les activités des patrouilles de l'après-midi. Donc c'est compliqué.
Donc c'est pizza et paperasse ?
Exactement.
De l'autre côté de la cour, près des cellules nauséabondes, Nicolas, policier de la BAC, récupère au coffre son fusil d'assaut.
Le HKG-36, donc c'est l'arme antiterroriste en fait.
Vous le prenez à chaque fois ?
Ah ouais, tout le temps.
Les heures s'enchaînent, les patrouilles aussi, toute la nuit.
Café, patrouille, c'est parti.
Entre deux échanges sur la fatigue et la crainte d'être encore rappelé en renfort à la veille du 10e samedi des Gilets jaunes.
Voilà, reportage signé Guillaume Bier pour Europe 1, matinée spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens et à Paris en studio pour la suite du journal avec David Doucan, Pierre de Villeneuve. Messieurs, c'est
merci
à vous.
Merci Nikos, et nous vous parlons du Brexit et de ses conséquences.
Oui, conséquences concrètes pour les universités britanniques. Les inscriptions d'étudiants européens sont en baisse et la fin potentielle des financements de l'Union menace l'avenir de la recherche. Reportage de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
Faire ses études au sein d'une université britannique prestigieuse, c'était le rêve d'Alexandra au lycée. Cette jeune Roumaine l'a réalisé. Aujourd'hui, elle est doctorante en sociologie à University College London. À un an de l'obtention de son diplôme, il n'y a qu'une ombre au tableau, le Brexit.
Je me suis lancée dans le doctorat pour poursuivre une carrière dans la recherche. Et maintenant, cela va dépendre de la situation après le Brexit. Beaucoup de postes dans la recherche sont liés au financement européen et aux projets internationaux. Donc, ce sera plus difficile de trouver un travail.
Cette incertitude aurait repoussé de nombreux étudiants européens. En 2017 et 2018, ils ont été 9% de moins à s'inscrire en troisième cycle dans les 24 universités du Russell Group, qui comptent notamment Oxford et Cambridge. La tendance inquiète.
Si les bons chercheurs européens vont dans d'autres pays ou restent chez eux, on perd des cerveaux brillants et ce qu'ils peuvent apporter à nos recherches. Et si la recherche est de moins bonne qualité, cela va affecter notre position dans le classement mondial, notre compétitivité, la qualité de nos universités et notre capacité à recruter des étudiants et des professeurs.
Selon l'Association des universités britanniques, les étudiants européens génèrent près de 4 milliards d'euros pour l'économie du pays. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et concluons avec cette nouvelle révélation embarrassante pour Donald Trump. Le site BuzzFeed affirme que le président a ordonné à son avocat Michael Cohen de mentir sous serment devant le Congrès. Le procureur spécial Mueller, qui est en charge de l'enquête russe, aurait des documents et des témoignages pour le prouver. Si cela était confirmé, alors ce serait un cas d'obstruction de justice, crime fédéral et motif pour lancer une procédure de destitution.
Merci. C'était le journal de David Doucan. Restez avec nous dans deux minutes. L'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour Pierre. Il sera ce matin en direct du commissariat d'Amiens où est délocalisée la matinale d'Europe 1 et où il s'est rendu pour assurer les forces de l'ordre de son soutien à la veille d'un 10e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, sera mon invité.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h10.
Et le ministre de l'Intérieur en direct d'Amiens, Christophe Castaner, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Margot Lanuzel et Guillaume Bier, journalistes de notre rédaction, sont en immersion depuis 24 heures dans le commissariat d'Amiens, où vous vous trouvez, et où ils ont rencontré des policiers qui regrettent que leur uniforme soit de moins en moins respecté par les Français. C'est pour ça que vous êtes venu soutenir le moral des troupes ?
Oui, je le fais chaque jour depuis que je suis ministre de l'Intérieur et je me rends sur le terrain chaque fois que possible parce qu'effectivement, on voit cette mise en cause, ces agressions, ces attaques contre nos forces de sécurité. Et mon rôle, c'est d'être à leur côté avec exigence dans la qualité de leur engagement, mais aussi d'être psychologiquement, amicalement. Je suis un père de famille aussi. Et donc, quand je rencontre de jeunes gardiens de la paix, comme celui que j'ai vu ce matin, dès la prise de poste, je suis allé au commissariat d'Amiens. J'ai rencontré cet homme, un gardien de la paix assez jeune, qui est en arrêt maladie depuis le 17 novembre, le premier jour de la manifestation des Gilets jaunes, et qui, depuis blessé, attend son opération. Elle aura lieu dans quelques jours.
Avec le mouvement des Gilets jaunes, les policiers accumulent à nouveau des heures supplémentaires, mais ils accumulent aussi de la fatigue. Après tant d'affrontements avec les Gilets jaunes, les forces de l'ordre ne sont-elles pas tentées de durcir la répression pour en finir au plus vite avec le mouvement ?
Non, parce qu'elles savent que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des crises. C'est aussi le ministère de la patience et de l'endurance, parce que c'est le ministère de la permanence de l'État. Et notre fonction, c'est d'assurer la sécurité, c'est d'empêcher les violences, c'est de faire respecter la liberté de circuler, de commercer aussi. Mais c'est vrai qu'on est confronté à un mouvement d'un nouveau genre qui dure et qui s'organise toujours pour empêcher la police de faire son métier. Alors qu'à l'inverse, moi, je peux vous dire que le 17 novembre, le premier ordre que j'ai donné à mes forces, c'est de se rendre partout dans les 1200 points qui étaient occupés, des ronds-points à l'époque en particulier, pour leur dire « sécuriser les manifestants ». Le premier ordre et la première mission de nos forces de sécurité a été de sécuriser les manifestants qui occupaient des ronds-points, des axes de circulation, des autoroutes qui étaient encore ouvertes à la circulation, alors même qu'aucune manifestation n'avait été déclarée.
Christophe Castaner, Marine Le Pen vous reproche de répondre à la désespérance sociale par des coups de matraque. Est-ce que vous allez maintenir votre politique d'ultra-fermeté face aux Gilets jaunes ?
Ben, vous savez, face à l'ultra-violence, on peut soit tenir des propos d'estrade, comme le fait Mme Le Pen, soit au contraire agir. Agir, c'est garantir la sécurité de nos concitoyens, mais c'est aussi le plan et les mesures sociales qui ont été mises en œuvre sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, plus de 10 milliards d'euros d'engagement, avec par exemple pour l'ensemble des salariés qui sont au SMIC, et même au-delà, une prime de 100 euros à la fin de ce mois. Mais c'est aussi la réponse politique, c'est le grand débat national. Alors on peut faire le choix de continuer à se battre, ou alors on peut choisir de débattre. Moi, je préfère qu'on puisse débattre.
Christophe Castaner, une centaine de manifestants ont été gravement blessés depuis le début du mouvement, principalement à cause des LBD, les lanceurs de balles de défense. Faut-il continuer à utiliser des armes aussi dangereuses ?
Effectivement, on est face à une grande violence. Et quand il y a un blessé, où qu'il soit, que ce soit un manifestant, même s'il est violent dans son comportement, ou un policier, ou un journaliste, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et donc, nous devons veiller à garantir cela. Mais vous avez assisté, comme moi, à cette violence quotidienne dans chacune des manifestations, avec des attaques systématiques contre les institutions, contre nos policiers, contre nos forces de l'ordre. Alors, les policiers, ils ont des moyens de défense. Mais des moyens de défense. Et le LBD est seulement un moyen de défense qui est organisé, qui fait l'objet d'un agrément pour celui qui l'utilise. Ils sont formés pour cela, mais qui leur permet justement, dans les cas où ils sont acculés, de pouvoir se libérer et de pouvoir réagir et occuper la place publique.
Le défenseur des droits, Christophe Castaner, Jacques Toubon, demande la suspension de l'usage des LBD pour éviter de nouvelles blessures graves. Vous assumez, contre son avis, la responsabilité de leur emploi face aux Gilets jaunes. On continue à utiliser ces armes.
Mais d'abord, ça fait de nombreuses années que le défenseur des droits tient ce discours. Et la réalité, c'est quoi ? C'est que si vous supprimez les moyens de défense à nos forces de l'ordre, il leur reste quoi ? Il leur reste le contact physique. Et il y aura certainement beaucoup plus de blessés, où il leur reste l'utilisation de leurs armes de poing, qui est la solution ultime. Or, justement, nous avons besoin de pouvoir utiliser des lacrymogènes, des outils comme les LBD.
Pas question d'arrêter d'utiliser les LBD ?
Ah mais vous mettez quoi à la place, Madame Crespo-Mara, dans les mains de nos policiers ?
Donc,
si vous leur supprimez ces moyens de défense.
Ah
mais l'objectif est de continuer à protéger l'ordre public. La vraie différence entre les manifestants qui, quelquefois, viennent, pas tous, avec des barres de fer, avec des battes de baseball. Encore cette nuit, nous avons interpellé quelqu'un qui avait une batte de baseball cloutée. Vous voyez, un peu comme ces armes du Moyen-Âge. Et donc, si nous ne dotons pas nos forces de sécurité de moyens de protection, et je parle bien de moyens de protection, par contre, à l'inverse, il peut arriver que l'usage de ces armes de défense, comme le LBD, soit mal utilisé.
Mais est-ce que vous continuez, c'est juste une question, Christophe Castaner, vous continuerez à utiliser les LBD ?
Mais je continuerai à protéger nos forces de l'ordre et je continuerai à protéger les Français. Vous savez, on pourrait aussi considérer que quand il y a une intervention dans un braquage de banque, il faut que les policiers ne soient pas armés parce qu'il leur arrive de devoir utiliser leurs armes. Ce sont des armes de protection et de neutralisation face à des assaillants. Mais je voudrais que les choses soient claires. Depuis le début du conflit, il y a eu 81 saisines judiciaires de l'IGPN, 81 enquêtes et 81 enquêtes qui portent des atteintes diverses qui vont de l'insulte à la blessure grave. Et systématiquement, je veux que la transparence soit faite. Mais nous avons rappelé encore cette semaine à nos forces de sécurité qu'il y a des modalités d'usage. Peu de nos hommes ont des LBD entre les mains. On leur a rappelé ces modalités d'usage qui doivent se faire avec des règles strictes qui visent à protéger les policiers, à protéger l'ordre public.
Quel sera le dispositif de sécurité demain, 10e samedi de mobilisation des Gilets jaunes ?
D'abord, c'est toute la difficulté à laquelle nous devons faire ça, c'est qu'il y a un acte 10, il y aura un acte 11, un acte 12, alors que nous sommes au monde du débat national. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acte 1 du grand débat national.
Mais le dispositif
En attendant, face à ces mobilisations que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, nous allons de nouveau mettre beaucoup de forces de l'ordre dans la rue, parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre dans la rue que la tentation de la violence que nous retrouvons à chacune des manifestations ne se déroule pas. On nous dit que la semaine dernière, ça s'est bien passé. L'explication est simple. Il y avait beaucoup de forces de l'ordre dans la rue.
80 000 membres de forces de l'ordre en France, dont 5 000 à Paris. C'est le même dispositif demain.
Nous le faisons adapter chaque semaine parce que les manifestants, chaque semaine, tentent des coups différents avec toujours la volonté de nuire à nos forces de sécurité, d'attaquer des institutions, de brûler des préfectures ou des services publics. C'est aussi ça la réalité. Et sachez que chaque nuit, encore cette nuit, il y a des opérations de sabotage qui sont organisées en France.
Christophe
Castaner,
donc je
veux que les choses soient claires. Il n'y a pas d'un côté de gentils manifestants et de l'autre de méchants forces de l'ordre. Il y a de gentils manifestants, il y a des forces de l'ordre qui ont le droit d'utiliser l'ordre et la force quand elle est nécessaire et toujours de façon proportionnée.
Christophe Castaner, aujourd'hui à Souillac dans le Lot est quasiment en état de siège pour accueillir le président. On en est arrivé au point où Emmanuel Macron ne peut plus se déplacer dans le pays sans provoquer des émeutes. La première rencontre avec les maires, c'était 12 escadrons de gendarmes mobiles, soit plus d'un millier de militaires. C'est la même chose à Souillac ?
Non mais c'était quoi ? C'était 200 manifestants qui étaient venus de toute la région pour empêcher le débat public. C'est ça la réalité.
Mais c'est le même dispositif aujourd'hui à Souillac.
Il y a un dispositif qui protège nos institutions et le président de la République, comme tous les présidents de la République, ont été protégés. Mais ne négligez pas, et on peut parler des forces de sécurité présentes, mais ne négligez pas qu'il y aura à nouveau 150 ou 200 personnes. C'est cela dont on parle. Hier, il y avait en France moins de 1000 manifestants gilets jaunes pour toute la France. Et pourtant, nous avons besoin de mobiliser parce qu'ils cherchent à empêcher le débat, ils cherchent à empêcher la libre circulation, ils cherchent à empêcher le commerce, ils cherchent à empêcher, au fond, que la démocratie se pratique dans de bonnes conditions. Donc oui, nous protégeons le débat public aussi, et je pense que c'est cela la démocratie.
Christophe Castaner, comment Alexandre Benalla a-t-il pu utiliser une vingtaine de fois un passeport diplomatique qui n'était plus valable ?
J'ai répondu à cette question à la commission d'enquête. Et vous le savez, le ministère de l'Intérieur émet 4 types de passeports dont il maîtrise l'usage et qu'il peut neutraliser. Monsieur Benalla, par exemple, a un passeport de service. Dès le 30 juillet, un jour avant qu'il soit licencié, nous avions au ministère de l'Intérieur neutralisé l'effectivité de ce passeport. Les passeports diplomatiques ont un régime juridique particulier. Ce ne sont pas des passeports biométriques. Donc si Monsieur Benalla n'avait plus le droit de l'utiliser, nous n'avions pas la possibilité de le débrancher, pour utiliser un terme que nos auditeurs comprennent.
Étant donné l'effet dévastateur que cette affaire a eu sur le pouvoir depuis le mois de juillet, n'était-ce pas aussi votre mission de garder un œil sur Alexandre Benalla ?
Non. Le renseignement, le fait de suivre quelqu'un relève de la police judiciaire et donc heureusement que le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit, et j'entends respecter le droit, de suivre quelqu'un, de l'identifier, de l'empêcher de sortir du territoire alors que la justice ne l'a pas décidé.
Cette affaire Benalla avec ses épisodes sans fin vous agace ?
Oui. Effectivement, tout comme son comportement m'agace quand on découvre que, y compris pour demander des documents officiels, il aurait produit des faux documents.
Merci Christophe Castaner.
Merci à vous.
L'interview politique avec Audrey Crespo-Mara, vous énonciez tout à l'heure les violences et précisément le LBD. Est-ce que vous avez vu, monsieur le ministre, cette affiche ? Cette affiche où on vous voit mutilé, blessé à l'œil, on voit le président aussi avec la gueule cassée, des dents cassées, d'autres ministres. C'est une affiche qui est censée choquer et dénoncer les violences. Quelle est votre réaction ?
Non, c'est le courage des pleutres qui invite à la violence. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont libéré cette violence-là. Ils ne sont pas les seuls responsables, mais on voit effectivement fleurir des mises en scène macabres, des décapitations du président de la République. On voit plus de 50 parlementaires qui ont vu leur permanence attaquée. Au fond, l'absence de courage par l'anonymat libère la pire des énergies, celle de la méchanceté, celle de la violence, celle de la haine.
Vous avez été nommé ministre de l'Intérieur au mois d'octobre. Vous pensiez que ça allait être si dur ?
J'ai eu un concentré en 3 mois, effectivement, d'un certain nombre de rendez-vous à gérer assez exceptionnel. C'est un ministère difficile, le ministère de l'Intérieur, et je le savais en l'acceptant, mais je savais pouvoir m'appuyer sur l'énergie, le savoir-faire, la force de nos agents, de nos forces de sécurité, de nos forces de renseignement, quand on a eu à gérer la chasse contre l'auteur de l'attentat de Strasbourg. J'ai vu pendant 48 heures cette énergie-là et je peux vous dire toute la fierté que j'ai d'être leur chef, d'être l'animateur de ce ministère, d'être en responsabilité aussi politique et d'assumer les critiques quand je leur rends à eux la fierté de ce qu'ils font.
C'est quoi être premier flic de France ? Regardez, nous sommes ici dans un commissariat à Amiens. Autour de nous, il y a une trentaine, une cinquantaine de policiers, femmes, hommes, tous les âges. C'est quoi être devant eux premier flic de France quand on n'est pas policier ?
C'est d'abord prendre des décisions du quotidien. Ici, à Amiens, dans les locaux qui vous accueillent, dans les deux locaux à Amiens qui accueillent nos forces de l'ordre, on voit des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Et donc, c'est la décision qui a été prise par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, que je vais mettre en œuvre de réaliser ici un nouveau commissariat, un nouvel hôtel de police en investissant 30 millions d'euros. C'est leur donner des conditions de travail correctes. Parce que vous savez, quand le repère du caïd dans le quartier est de meilleure qualité que le commissariat, on a effectivement un problème d'honneur de nos forces. Donc, c'est cela, c'est prendre des décisions du quotidien, c'est changer la doctrine, par exemple, de force et de gestion des forces de l'ordre. Après les événements et les attaques inouïes que nous avons connues le 1er décembre, en une semaine, nous avons changé totalement la doctrine de mise en œuvre de l'ordre public en France. Ben, c'est prendre ces responsabilités-là, mais c'est s'appuyer sur des femmes et des hommes qui portent une énergie extraordinaire.
Tout à l'heure, le patron des policiers du département, David Prud'homme, disait « On a peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va concernant les gilets jaunes. » Est-ce que vous savez où on va avec la crise des gilets jaunes, Christophe Castaner ?
Non, je le disais à l'instant, de moins en moins de mobilisation, une mobilisation nationale, même la semaine dernière, avec 80 000 personnes, ce qui est peu à l'échelle de ce qu'on connaît pour les manifestations. Moi, j'ai en tête la dernière manifestation contre la réforme de la SNCF, c'était 322 000 personnes, dont 50 000 à Paris, et ça se passait sans difficulté. Vous savez, pour filer la métaphore théâtrale, la pièce s'éternise. Il n'y a plus grand monde, ni sur la scène, ni dans la salle. Pour moi, il est temps de changer de pièce. Ce qui m'intéresse, c'est l'acte 1 du débat national.
Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur, d'avoir été avec nous ce matin pour cette matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens. Merci à Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique. Et merci à vous de nous avoir accueillis. On est ensemble jusqu'à 9h.
Et il est 8h25, retour en studio à Paris avec vous, Pierre de Villeneuve.
Et dans un instant, la revue de presse de David Abiker. À tout de suite.
Prochaine demi-heure, Pierre de Villeneuve.
Eh bien, David Abiker s'installe, il a la presse avec lui, la revue de presse, c'est dans 2 minutes. Bonjour David, et aujourd'hui ?
Bonjour, il y a 3 mots dans l'actu ce matin, c'est la violence, mais l'écoute, et surtout la négociation. Et donc, on parlera aussi de négociation de salaire, ça peut intéresser tout le monde.
Merci, à tout à l'heure, et puis 8h40, il arrive le gangster de cette matinale, il s'appelle Nicolas Canteloup.
Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Pierre.
Alors, météo à Amiens.
Ouais, bien sûr, puisque nous sommes à Amiens. On ne va pas à Amiens sans visiter les ortillonnages, qui sont des jardins flottants, le long de 65 km de canaux. C'est unique au monde. Et vous pouvez les visiter en barque, et vous découvrez des potagers magnifiques comme ça, en plein centre-ville. Puis à Amiens, et allez voir aussi le quartier Saint-Leu, des maisons de toutes les couleurs, et vous ne regretterez pas ces découvertes de la ville de Jules Verne.
Est-ce que vous avez goûté aux macarons d'Amiens, qui n'ont rien à voir avec les macarons habituels ?
Je me suis
avec,
pour l'instant...
à l'amande. Ça, il faut goûter ça alors.
Je me suis retenu.
Moi j'ai tout noté. Hein.
Je vais me lâcher.
Allez, lâchez-vous. Alors, voilà, lâchez-vous donc, pour le temps aussi.
Je disais que Amiens est donc représente le temps de la France aujourd'hui. C'est un ciel voilé sur quasiment toute la France. Et comme à Amiens, profitez de la journée car demain, ça va sérieusement se gâter avec l'arrivée de pluies verglaçantes et parfois même de neige. On n'en est pas là. Donc aujourd'hui, hormis le Midi-Pyrénées où ça va s'arranger, hormis les vallées alpines, partout ailleurs, c'est un temps voilé. Et vous voyez apparaître une perturbation qui arrive par la façade atlantique. C'est cette perturbation qui va nous donner tant de soucis pour demain. On n'en est pas là. Les températures ce matin sont entre moins 4 et plus 5. Couvrez-vous, mes amis. Et dans l'après-midi, entre 3 et 14, 3 à Colmar, 5 à Paris, 6 à Caen, 7 à Rennes, 9 degrés à Toulouse et 10 degrés à Marseille et 4 degrés bien sûr à Amiens.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le vendredi 18 janvier. Toute l'actualité à 8h30, Pierre de Villeneuve.
Après le défenseur des droits Jacques Toubon qui était l'invité d'Europe 1 hier soir, voici que les députés France Insoumise veulent eux aussi faire suspendre l'usage du flashball par les forces de l'ordre. Ils ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée, le LBD. Précisément, et non pas le flashball, est seulement un moyen de défense qui permet aux policiers de se libérer quand ils sont acculés, répond ce matin sur Europe 1 le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Emmanuel Macron attendu à Souillac dans le Lot pour une nouvelle rencontre avec des élus dans le cadre du grand débat. Plusieurs partis et syndicats appellent à manifester dans le secteur en fin de matinée. La Colombie face à l'attentat le plus meurtrier de son histoire, 21 morts, 68 blessés dans une attaque à la voiture piégée contre une école de police. Un deuil national a été décrété.
Europe 1. Et tout de suite, Pierre de Villeneuve, on retrouve la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour Céline.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Ce matin dans la presse, je vous le disais à l'instant, il y a 3 mots qui s'enchaînent assez logiquement d'ailleurs. Violence, écoute et négociation. Alors la violence fait la une du courrier Picard, je vous en parle parce qu'Europe 1 est ce matin en Picardie à Amiens. On est à Albert dans la Somme, à l'appel des parents d'élèves, les écoliers étaient absents hier pour protester contre les incidents causés par un enfant violent de 9 ans, avec lequel il faudra sans doute faire preuve d'écoute et de négociation dans les jours à venir. La violence, vous la retrouvez aussi à la une de l'Ardennais, de Sud-Ouest, du Dauphiné ou de Libération avec le même sujet. Ces journaux mettent en question, comme Audrey Crespo-Mara à l'instant avec Christophe Castaner, les balles de défense utilisées par les forces de l'ordre dans les manifestations. Mais la presse vous parle aussi d'écoute ce matin avec le président de la République qui échangera, qui écoutera. Aujourd'hui, il sera avec les maires à Souillac dans le Lot. C'est la une du Midi Libre et de la Dépêche du Midi. Comment écouter le peuple s'interroge encore l'hebdomadaire Le 1 à la veille du 10e samedi de manifestation des Gilets jaunes. Ce qui nous amène tout droit à la une du Point. Le point de la semaine sur l'art de négocier pour éviter les conflits. Conflits avec les enfants, avec le conjoint, l'employeur. Et ce conseil de Lionel Bélanger, qui est philosophe, il enseigne à HEC, la solution à un conflit se trouve dans ce qu'on va entendre chez la partie adverse. À bon entendeur donc.
Tendre l'oreille, c'est ce que le président de la République va faire à Souillac aujourd'hui avec les maires de la région Occitanie.
La Dépêche du Midi et le Midi Libre décrivent ce matin l'effervescence qui précède cette deuxième rencontre avec des élus locaux. Imaginez, le dernier président de la République à s'être rendu à Souillac dans le Lot, c'était Raymond Poincaré. Ça fait plus d'un siècle, c'est vous dire. Le Midi Libre rapporte que dans la nuit de mercredi à jeudi, des taggeurs ont dessiné des gilets jaunes sur les murs de l'hôtel de ville. Plus loin, un mur a été totalement repeint en jaune sur lequel a été écrit « Dictature, le roi arrive ». Je ferme les guillemets. Pourtant, le maire de Souillac, il a un nom prédestiné pour accueillir Macron en douceur.
Oui,
il s'appelle Sanfourche, Jean-Michel Sanfourche. Pour lui, il y aura un avant et un après ce 18 janvier. On parle de Souillac partout en France comme à l'étranger, exagère-t-il un peu, en se confiant à la Dépêche du Midi. Sûr que les commerçants, eux, vont s'en souvenir de cette visite. Le centre-ville est bouclé, les commerces fermés, les accès verrouillés par la gendarmerie. On se réjouit quand même à Souillac, mais on prend ses précautions. Le Midi Libre, lui, anticipe sur les questions des maires au président. Fiscalité, coût des services publics, financement de la transition écologique. Le quotidien précise d'ailleurs qu'il n'a pas été si facile de mobiliser des élus locaux toute une journée pour discuter avec Macron. Certains refusent même de faire de la retape pour le président, tel Christian Bilac, il est maire de Perret dans l'Hérault. Voilà ce qu'il dit. Moi, je suis prêt à participer à des négociations, encore des négociations, dit-il, mais pas à une grand-messe. Et oui, écouter, répondre, donner du temps et refaire le show qui a séduit la presse mardi dans l'heure et qui a fait la une aujourd'hui. Du Parisien aujourd'hui en France, ça suffira pas. Car les maires veulent plus que de la considération aujourd'hui, ils veulent négocier des moyens.
Ce qui nous amène tout naturellement à ce numéro du Point sur l'art de négocier.
Eh ben oui, l'actualité est pleine de négociations plus ou moins en panne. La négociation bloquée entre Trump et les démocrates sur le mur qu'il veut construire et qu'il lui refuse. La négociation en panne entre Theresa May avec sa majorité sur le Brexit. Sans parler des négociations de salaire en cette période où les entreprises pratiquent le rituel de l'entretien d'évaluation. C'est là que la lecture du Point peut être utile. On y trouvera trois conseils des DRH pour négocier une augmentation de salaire. Pierre, je vais vous donner ces trois conseils. Si ça marche pour vous, on partage. Alors, premier conseil de Jean-Christophe Sibéras. Il est ancien président de l'Association nationale des DRH et il est DRH lui-même. Choisir son moment.
Mais c'est jamais le moment.
Ah, mais je sais, mais il faut quand même le choisir. Il faut demander une augmentation quand on est apprécié, pas quand on vient de se faire engueuler. Bref, il faut être en position de force. Deuxième conseil, montrer, chiffre à l'appui, qu'on la mérite, l'augmentation. Il faut être cartésien, avoir des arguments sérieux. Troisième conseil, ne jamais menacer l'employeur. Par exemple, de démissionner, brandir la menace d'une démission, ça peut se retourner contre vous. Mais le meilleur conseil, figurez-vous, je l'ai trouvé ce matin sur LinkedIn, le Facebook des pros. Sandrine, qui elle-même est DRH, a répondu à ma question. Je demandais, mais comment on négocie une augmentation? Donnez-moi des conseils. Et voilà son conseil, voilà ce qu'elle dit. Vous dites à votre patron, si vous ne m'augmentez pas, je dirai à tout le monde que vous m'avez accordé une énorme augmentation et ensuite c'est vous qui assumerez les conséquences. Alors Sandrine, qui est DRH, donc elle a un métier sérieux, elle précise immédiatement que c'est une blague. Eh bien, j'en suis pas si sûr.
Toujours un fond de vérité dans les blagues. Merci, c'était la revue de presse, comme tous les matins, de David Abiker.
En direct du commissariat d'Amiens, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et les 8h36, c'est à vous Nikos pour la suite de cette matinale spéciale.
En effet, on est en immersion dans un commissariat ici à Amiens. À mes côtés, Alain Acaud, le chef du service police-justice d'Europe 1. Amiens, la ville de naissance du président de la République, mais c'est aussi la ville d'un de ses opposants, le député France Insoumise, François Ruffin. C'est ici, dans un commissariat, qu'on a pu prendre la température de ce qui se passe au quotidien, avec la crise des gilets jaunes, mais aussi la délinquance. Comment est perçue la police au quotidien et comment aussi la police perçoit la société? Vous avez, pendant toute la matinale, passé beaucoup de temps en coulisses, Alain Acaud. Vous avez discuté avec des policiers gradés, avec des stagiaires. Qu'est-ce que vous avez gardé, ressenti jusqu'à présent, Alain Acaud?
Ce qu'ils ont retenu...
Près du micro, allez-y.
Il
y a du monde, il y a des policiers autour, en fait, encore.
ce qu'ils ont retenu aujourd'hui, c'est qu'on avait aidé à humaniser la police, à montrer que derrière les uniformes, il y avait des hommes, des femmes qui aimaient leur métier, qui étaient là pour servir, qui étaient là pour permettre à la vie démocratique de fonctionner. Et puis, il y a aussi des familles. Le reportage de Carole Ferry avec une épouse de policier, avec une fille de policier, une jeune adolescente très fière de son père, les a beaucoup marqués. Et puis aussi, il y a une frustration, je dois vous le dire, la frustration de ne pas avoir eu le temps de tout dire, du quotidien, du soutien des gens, y compris sur les manifestations.
Et un mot aussi, j'ai été surpris par le nombre de femmes policières ici à Amiens. Ce n'est pas une exception. Hein.
Non, il y a 30% de femmes dans la police. Et en fait, dans la police, plus vous montez en grade, plus vous avez de chances de rencontrer des femmes.
Alain Acaud, chef du service police-justice. La matinale spéciale continue ici depuis le commissariat d'Amiens jusqu'à 9h.
Europe 1. Et il est 8h38, retour en studio avec vous Pierre de Villeneuve à suivre.
Il n'a pas manqué pas une miette de cette matinale spéciale qui dit commissariat et policier dit gangster. Le gangster, c'est Nicolas Canteloup, il arrive.
Il est 8h41.
22 Vla Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, Nico, c'est en direct du commissariat d'Amiens, on le retrouve tout de suite.
Tout à fait, ma chère Julie, ce matin, Europe 1 va plus loin, Europe 1 est délocalisé à Amiens. Amiens, la ville où sont nés Emmanuel Macron, Jules Verne et Michou. Vous l'avez compris, Amiens est une ville de contraste et ce matin, nous sommes dans un commissariat, nous l'avons dit, à nos auditeurs, qui se trouvent, et ce n'était pas une blague, rue des otages. Voilà, prochaine délocalisation, on ira à la caserne des pompiers, qui est rue des incendies, et puis on visitera peut-être une prochaine fois l'hôpital qui se trouve rue du cimetière. Vous l'avez compris, on aurait pu se la couler douce et aller voir des gendarmes ou à Saint-Tropez, mais non, on est à Amiens.
Amiens, c'est un peu comme Mexico, hein, ça me donne envie de chanter. Écoutez, mon cher Pierre Vino, entre Cabrol et Cabrel, il n'y a qu'une lettre, hein, donc je me lance. Amiens. Voilà. Francis Cabrol, bientôt dans les bacs, toujours dans les bocs.
Bravo. Merci, mon cher Laurent, pour toujours cette bonne humeur. Quel joli brin de voix. Alors, nous allons rentrer tout doucement dans le commissariat. Je suis en pleine salle de débriefing. On ne va pas faire de bruit. On rentre avec nos quatre personnes de l'équipe. Je suis à côté de, excusez-moi, je vous interromps, avec la commissaire Agathe Foucault. Ma première question, est-ce que vous avez un lien avec Jean-Pierre Foucault? Non, pas du tout. Non, je vous dis ça parce que comme je le connais... commissaire, comment s'est passé cette nuit entre jeudi et vendredi? Comment ça s'est passé? Dites-nous, c'était calme? C'était comment
Écoutez, c'était une nuit, assez calme. À part 12 personnes qui sont rentrées dans le commissariat de façon un peu intempestive avec des câbles, des micros dans la nuit qui ont additionné toutes les prises de courant et on les a interpellés immédiatement, bien entendu. Et oui. En fait, c'était vos équipes d'Europe 1.
Et oui, ça c'est nous. Ça c'est nous. Et encore, c'est que de la radio, ne vous plaignez pas, parce que ça aurait pu être Carole Rousseau et Bernard de la Villardière, où ils font de la télé, ils mettent des caméras partout. Enfin, bon courage pour demain. À vous, Julie.
Merci, Nikos. Gérard Collomb est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur Collomb. Merci de nous avoir rejoint dans ce commissariat que vous connaissez bien, je crois. Hein,
oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame Bouchard également, hein, monsieur Cabrol, madame Dacosta, monsieur Devino, monsieur Abica. Toujours silencieux. Écoutez. Oui, sauf lorsqu'il parle. Mais quand il roule, croyez-moi, il ne fait pas. Écoutez, bonjour aux agents de police, aux gardiens de la paix que vous rencontrez ce matin. Je les connais bien, vous l'avez dit, parce que lorsque j'étais ministre intérieur, venait souvent, me recueillir à Amiens.
Vous recueillir ?
Oui, je venais régulièrement me prosterner devant la clinique qui a vu naître Emmanuel Macron. J'allais également en pèlerinage jusqu'à la boulangerie. Je faisais le chemin où Emmanuel Macron achetait régulièrement des pains au chocolat et des sucettes. Puis je partais, autant vous le confier, verser une larme devant le lycée où Emmanuel Macron a reçu cette instruction exemplaire qui a fait de lui aujourd'hui le grand sauveur, notre lumière au bout du couloir.
Non, c'est bon, on a compris. Alors, on voulait avoir votre avis d'expert sur les flashballs, ces fusils lanceurs de balles qui font polémique. Est-ce que vous considérez ces armes comme dangereuses et quelles étaient vos consignes, vous ?
Écoutez, c'est beaucoup de bruit pour rien. Pour moi... S'ils sont correctement utilisés, ces flashballs ne sont pas dangereux. Vous savez, moi j'en ai utilisé moi-même avec Emmanuel Macron. Oui, non. Nous avons essayé cet outil dans les jardins de l'Élysée régulièrement. Je me souviens qu'il mettait une balle dans le lanceur de balles.
Oui.
Il tirait. La balle d'ailleurs allait assez loin dans les jardins, dans le parc de l'Élysée. Moi, j'allais la chercher, je la rapportais, et puis j'avais comme gratification un sucre. Et j'ai passé finalement de très belles après-midi avec ce flashball. Donc vraiment, je le dis aux forces de police et aux commissaires, tout dépend vraiment de la manière dont on l'utilise.
Merci, Monsieur Collomb. Nicolas Sarkozy est avec nous maintenant. Monsieur Sarkozy, merci de nous avoir rejoints ici à Amiens, au cœur de la Somme.
Oui, écoutez, merci de m'accueillir. C'est la moindre des choses. Vous êtes dans un commissariat. J'ai un grand souvenir en tant que ministre de l'Intérieur.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, permettez-moi de saluer tous les habitants de la Somme, tous les Somaliens, toutes les Somaliennes qui nous écoutent.
Alors...
Tout le monde rit ici. Hein. On vous écoute aussi à Amiens.
Merci, alors... monsieur Ayagas. Vous êtes partout. Hein. Vous mouillez la chemise, je vous félicite. Hein.
Merci, monsieur Sarkozy.
Monsieur Sarkozy, une réaction à cette polémique autour des flashballs. Hein. Certaines voix s'élèvent pour demander une police moins tournée vers la répression.
Écoutez, franchement, je...
Quoi ?
C'est scandaleux. La police n'est pas là pour organiser des tournois de ping-pong avec les délinquants.
Certes.
La répression, c'est, il faut le dire les choses, c'est le cœur du travail du policier, franchement.
Un mot sur Claude Guéant, votre ancien ministre de l'Intérieur, qui a été condamné à 2 ans de prison ferme, avec sursis, je crois, oui, c'est ça, dans l'affaire des primes en liquide.
Oui. Vous savez, on ne doit pas être que dans le répressif. Moi, je crois que si, franchement, si, je sais que Claude Guéant aimait le ping-pong. Si on avait fait plus de ping-pong avec Claude Guéant, il n'aurait peut-être pas pensé à détourner de l'argent. Parce que vous savez, moi, regardez-moi, je ne suis pas en prison, que je sache. Mais c'est parce que ce qui m'a sauvé, c'est le baby-foot. Parce que je joue au baby-foot. Et le travail de la police, ça peut être aussi ça, le baby-foot ou le ping-pong.
Je crois qu'on va vous laisser là, après ces démonstrations.
Je vous en prie.
Christophe Castaner est resté avec nous dans ce commissariat d'Amiens. Bonjour, monsieur le ministre de l'Intérieur.
Oui, bonjour. Bonjour.
Ah,
merci, madame Julie, monsieur Ayagas, merci, monsieur Devineau. Bonjour à tout le commissariat. Merci de m'accueillir. Sur cette musique qui caractérise à la fois mon côté Jean-Paul Belmondo et également mon caractère de fin limier, fidèle à l'œil vif et au poil luisant, je le crois. Décidément, ça fait beaucoup de notions animalières et canines
oui,
dans cette
vrai,
émission.
Oui. Exactement. Alors, monsieur Castaner, la grande question du moment, c'est évidemment les flashballs. Quel est votre avis sur ces fusils ?
Écoutez, au risque de me répéter, c'est un faux débat. On l'a expliqué ce matin, ces armes sont contrôlées régulièrement et ne sont pas dangereuses. Écoutez, j'ai à côté de moi ce brigadier qui est équipé d'un flashball. Et nous avons... Oui, monsieur, montrez-nous un petit peu, monsieur brigadier. Allez, je vous en prie. Montrez-nous, faites-nous une démonstration.
Merde. Pardon, monsieur le ministre, ça va ?
Ouh là là.
Brigadier. Oui, madame Julie, ces armes ne sont absolument pas dangereuses. On peut tout à fait raisonnablement encaisser le choc.
Oh là là,
attends, venez par là, monsieur le ministre, parce que là vous saignez beaucoup. Là. Non, ne vous baissez pas, je vais les ramasser.
Oui, non.
Oui, j'ai vu.
Mais attendez, ce sont ses dents par terre. Oh là là. On va vous laisser, monsieur Castaner. Bon courage. Alexandre Benalla est en garde à vue pour faux et usage de faux. Mais puisque nous sommes dans un commissariat, il nous a été permis de le voir. Il est donc avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Benalla.
Monsieur Bonjour, Benalla. Julie, je m'appelle Alain Benalla, Alexandre Benalla, agent 000. Est-ce que je peux avoir un martini dry au shaker, pas à la cuillère?
On va voir ce qu'on peut faire, hein, monsieur Benalla. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous aviez 4 passeports?
Oh, vous savez, Julie Penny, c'est courant dans mon travail, j'ai 2 passeports. Un passeport vierge, un passeport de service, un passeport guatémaltèque, un passeport également au nom de Hubert Bonisseur de la Batte.
Non mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? Oh, non, il y a une enquête en cours, t'as pas fait une interview, Alexandre? Puis tant qu'on y est, tu les as tous rendus tes passeports ou pas? Le téléphone, tu l'as rendu le téléphone?
Non monsieur le président, le téléphone je l'ai encore. Mais vous le savez, c'est parce qu'en fait, c'est une de mes 2 chaussures qui fait téléphone. J'ai besoin d'en avoir 2, sinon les espions du monde entier m'auraient remarqué. Je dois, vous le savez, monsieur le président, passer inaperçu.
Oui, ben tu rends le téléphone, Alexandre. On s'est rendu compte qu'il manquait 3 fausses moustaches dans le tiroir des fausses moustaches. Pareil pour le stylo pistolet et la cravate qui permet d'envoyer des fax. Et tout ça, ça s'appelle revient. Il va me rendre fou, même, Julie. Il va me rendre fou. Hein.
Bon courage, monsieur Macron. Allez, autre chose. 2 joueurs de tennis français ont été placés en garde à vue mardi dans une affaire de match truqué. Ils sont soupçonnés d'avoir accepté de l'argent pour perdre un set.
Non, alors la permettez moi de m'inscrire en faux, on met en marche sur la tête, enfin.
Nelson.
Messieurs les mafieux, c'est scandaleux. Payer des joueurs français pour perdre un set. Mais franchement.
Oui, Nelson Montfort, on comprend que vous soyez choqués, évidemment.
Mais oui, ma chère Julie, ma chère Julie Penny. les joueurs français perdent gratuitement depuis 40 ans, monsieur de Villeneuve. Hein, nous n'avons pas besoin de vos pots de vin, de votre argent sale, messieurs les criminels. En plus, franchement, c'est fou de son pognon par les fenêtres. Pourquoi pas payer aussi Francis Allen pour chanter mal ou payer Cahuzac pour fonder le fisc?
Bon, ben c'est un vrai coup de gueule, Nelson, là. Hein.
Tout à fait, tout à fait. L'honneur de notre pays, madame Julie, c'est de paumer bénévolement pour le seul plaisir du public. Vive la République! Vive les tennismen français qui paument, vive Tsonga, vive la France.
Et vive Nicolas Canteloup.
Merci Nicolas Canteloup.
Et tous les matins, 9h-11h, dans quelques instants, c'est le tour de la question. Bonjour Wendy Bouchard.
Bonjour Pierre de Villeneuve, bonjour à tous. Oui, Nico, c'est avec les policiers ce matin et au lendemain de l'hommage aux 2 pompiers tués en intervention à Paris, on donne la parole à ces hommes et à ces femmes dévoués à 100% au service de vos vies, au service des autres, qui interviennent toutes les 6 secondes en France. Leurs témoignages seront éclairants et très nombreux dans ce tour de la question, pompiers volontaires ou pompiers professionnels. Et puis on parlera ensuite du succès des comédies françaises, ce festival de comédie à l'Alpe d'Huez, avec Audrey Lamy, Eric Toledano, Guillaume de Tonquédec. Enfin voilà, on va faire un beau tour de la question gay et joyeux. Et c'est la même chose, voilà. En
fait. Merci Madame de la Palisse. À tout à l'heure, 9h pile pour le tour de la question. À suivre la météo et l'essentiel de votre matinale spéciale à Amiens, juste avant 9h avec Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 8h55. À suivre l'essentiel de la matinale avec Nikos Aliagas, mais tout de suite la météo.
Avec Laurent Cabrol.
Un petit rappel pour vous dire qu'aujourd'hui, bien, le temps sera sec. Il faut en profiter. Je le dis depuis ce matin, je le confirme. Savourez cette journée d'hiver, car demain, ce sera beaucoup moins agréable. Donc, un temps gris, bien sûr, un temps voilé, bon, un temps d'hiver, avec à la clé une perturbation qui arrive par les côtes atlantiques et qui va entamer sa progression et durant la nuit prochaine, comme la journée de demain, elles vont donc traverser le pays en apportant des phénomènes glissants comme le verglas ou peut-être même des chutes de neige. Les températures aujourd'hui vont se situer entre 2 et 16 degrés. Elles continueront de baisser dans les jours à venir. 2 à Nancy, 3 à Colmar, 4 à Clermont, 5 à Amiens, Lille et Lyon, 6 à Caen, 7 à Rennes, 8 à Nantes, 9 à Brest, 10 à Marseille et 14 degrés à Nice. À Paris, il fera 5 degrés.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le vendredi 18 janvier. On revient sur les moments forts de cette matinale spéciale en direct du commissariat d'Amiens avec vous, Nico Saliagas.
Nous avons en effet passé 2 heures dans ce commissariat à Amiens entouré de policières et policiers pour comprendre le quotidien des forces de l'ordre, évoquer avec eux l'actualité chargée, l'usage de la force, les tensions sur le terrain, beaucoup d'échanges et de témoignages. Ce matin, on est aussi allé donner la parole à une famille, celle de Laurent, capitaine de police. Ici, il travaille de nuit. Quel impact sur la vie de famille ? On écoute Sylvie, son épouse et sa fille Charlotte, 13 ans, au micro de Carole Ferry.
Quand on entend le téléphone la nuit, que son mari n'est pas là, on a quand même des peurs. Je ne veux pas me retrouver toute seule avec mes enfants. Puis c'est mon mari que je l'aime.
Je suis fière parce qu'il sauve des gens, mais en prison les mauvaises personnes.
Bah après, les gens, ils critiquent les policiers, mais quand ils en ont besoin, ils savent les appeler.
Ça vous touche ?
Oui, ça me touche beaucoup. Ça me met en colère parce que bon, bah, il risque sa vie pour les gens, quoi. Mais les gens, ils comprennent pas.
Bien sûr, l'actualité continue, marquée depuis plusieurs semaines par la mobilisation des Gilets jaunes. Amiens n'a pas été épargné par les casseurs. Les 22 et 29 décembre, il y a eu de forts débordements, des violences sur les forces de l'ordre. Comment est-ce qu'on se prépare à la veille d'une 10e journée de manifestation ? Comment faire face à ces journées très tendues ? Écoutez le témoignage de David Prodhomme. Il est le commissaire d'Amiens et directeur départemental de la sécurité publique. C'était à 7h45.
Préparer une manifestation pour la police, c'est beaucoup de travail avant. Ça se voit pas, hein, préparer un match de foot, préparer une manifestation. Ça nous demande beaucoup d'organisation, d'anticipation. Et le résultat, c'est quand on n'en parle pas pour nous. C'est quand il n'y a pas d'incident, c'est quand il n'y a pas de blessés dans les forces de police, dans les manifestants. Les manifestants, ils doivent respecter des règles, nous aussi. Mais notre but, c'est que la manifestation se passe bien.
Et à 8h15, Audrey Crespo-Marin a interrogé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il était ici à nos côtés dans ce commissariat d'Amiens. Il est revenu sur la polémique autour du LBD, le lanceur de balles de défense, présumé responsable de plusieurs dizaines de blessures, parfois très graves, sur des manifestants gilets jaunes. Quelle est sa position à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation ? On l'écoute.
Le LBD est seulement un moyen de défense qui est organisé, qui fait l'objet d'un agrément pour celui qui l'utilise. Ils sont formés pour cela, mais qui leur permet justement, dans les cas où ils sont acculés, de pouvoir se libérer et de pouvoir réagir et occuper la place publique.
Et les LBD, pas question d'arrêter d'utiliser les LBD ?
Ah mais vous mettez quoi à la place, Madame Crespo-Mara, dans les mains de nos policiers ?
Donc,
si vous leur supprimez ces moyens de défense,
ah
mais je continuerai à protéger nos forces de l'ordre et je continuerai à protéger les Français.
Christophe Castaner au micro d'Europe 1. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. C'est Mix1 qui nous dit que mettre dans leurs mains, c'est au ministre de trouver la réponse. Et Jim qui nous dit beaucoup de pays ne l'utilisent pas et s'en sortent très bien. Et Femme de flic nous dit la foule est hostile, elle n'accepte pas d'être maîtrisée. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre ces gens qui vont à l'affrontement. Voilà pour l'essentiel de cette matinale spéciale en direct du commissariat d'Amiens. Merci à Pierre de Villeneuve à Paris et aux équipes d'Europe 1. Merci à Alain Acco et à toutes les équipes qui se sont déplacées ici, techniques et éditorial. Je voudrais aussi remercier le directeur départemental de sécurité, David Prodhomme, qu'on a entendu, mais aussi Fabrice, Agathe, Marie-Ange, Emmanuel, Laurent, Denis, Franck, Sandrine, Valentin, Nicolas et l'ensemble du personnel du commissariat, Stéphane, Camille, pour la communication de la police. Merci de nous avoir accueillis. Nous sommes ici et nous sommes venus pour vous entendre, vous donner la parole sans vous juger et parler de tout. L'actualité continue sur Europe 1 avec Wendy Bouchard. Merci à tous de votre confiance.
Merci à vous, Nikos. Salut, et Pierrot. Demain, c'est Bernard Poirette que vous retrouvez de 6h à 9h.